Nous sommes mardi, il est 21h et c'est l'heure du dojo
Dans ton
bar.
slibard.
Et nous voilà, bonsoir à tous, pardon, bonsoir Méduse.
Salut Mortel, bonsoir.
Bonsoir à notre pléthore d'invités, nous accueillons donc ce soir Antix, l'homme réverso, le grand maître absolu de Smash Bros, notre champion du monde à nous de la farce.
Merci pour tous ces éloges.
Et voilà.
Ça fait très plaisir d'être ici.
Nous accueillons Jeff de Amiibo Games.
Salut.
Voilà, nous accueillons Mega Luigi de Amiibo Games aussi.
Bonsoir Mortal, bonsoir à tous.
Voilà.
Salut, salut.
Et on a quand même, pour la première fois dans l'histoire du Dojo Bar, des invités, des... Non, des... non, ça va. Non, ça, on a l'habitude, en fait. Non, mais en fait, rien. Non, mais c'est bon. En fait, c'est bon. Le programme de ce soir, nous allons donc commencer par nous intéresser aux Amiibo. Alors, ça fait quelques mois maintenant que c'est sorti, on a pu voir ce que ça donnait, on a pu voir les nouvelles idées que Nintendo a essayé d'exploiter avec. Voilà, on va faire une espèce de petit bilan, peut-être de petites critiques, et c'est pour ça que ces messieurs de chez Amiibo Games nous ont rejoints. Dans la deuxième partie de l'émission, on va continuer notre débat sur les notes dans les jeux vidéo, puisqu'on en avait fait un petit bout la semaine dernière, mais on savait qu'on finirait pas. Plein d'autres choses qu'on voulait dire, donc on va finir cette fois-ci. Puis nous conclurons par la citation du jour qui, je vous le promets, est croustillante. Elle croque sous la dent. Mais on va commencer par le tour de table de l'actu. Comme je suis un gros bâtard, je vais laisser Méduse commencer.
Ouais. Alors, tu veux vraiment que je la fasse celle-là?
Écoute, vas-y.
Allez, bon. Grosse actu, il y a un nouveau firmware pour la 3DS qui vient de tomber, c'est la version 9.6.0.24 et qui, comme d'habitude, fait un pas en avant en direction de la quête ultime de la stabilité maximum de la 3DS. Grosse actu de cette semaine.
Et donc, le blocage des R4 3DS aussi.
Très probablement. Il y a d'autres... Ah non, il y avait rien en fait, c'est dans la précédente qu'il y avait des trucs.
Voilà, donc en fait, il y avait rien. Donc c'était la
c'est
mise
la
à jour.
9.7 en fait.
C'est bien. Donc là, on a le 9.024.
9.7.025, pardon.
9.7.025.
J'étais une ligne trop bas en fait.
D'accord, donc en fait, t'as lu la mauvaise actu
ouais,
de
voilà.
Il y a 3
et sinon,
semaines.
À part
voilà.
Ça, il y a Image et Forme qui est le studio qui a fait SteamWorld Dig, qui est sorti sur un peu toutes les plateformes imaginables, qui développe actuellement une espèce de Tower Defense ou Tower Attack qui s'appellera SteamWorld Haste, qui s'annonce plus cool que SteamWorld Dig, qui était quand même assez moyen. Et en fait, ils vont mettre des exemplaires du jeu à gagner petit à petit. Ils vont proposer un challenge par semaine. Je vous relais ça demain sur le Dojo Bar, le temps de bien comprendre comment ça fonctionne. Ils proposent des challenges aux gens du genre, voilà, on vous met un screenshot et vous devez donner un nom à cette arme. Et si le nom, il est cool, on vous offre un jeu et on met le nom de l'arme dans le jeu.
D'accord.
On vous relaie tout ça. Voilà.
Mais
ça,
je vous rappelle
c'est,
que les...
cool comme moyen de un petit peu créer...
Les seules armes intéressantes, c'est le sniper à peinture et le rouleau de peinture. Tout le reste, on s'en fout. Voilà, c'est une question de principe. Antix, il me semble que tu avais un petit truc aussi. Je ne sous-entends pas que ton slibard est vide, hein, je sous-entends que tu as un petit sujet d'actu. Je précise
ouais,
parce,
non,
que,
parce
ça...
que je suis quand même bien équipé en bas. Je porte de chez Trek, c'est pour ça que je suis bien.
Tu veux dire de toutes nouvelles Adidas?
Exactement.
Attends, est-ce que tu passes la méthode d'authentification du dojo version si rare?
Je suis pas au courant de celle-là.
Aïe.
Il va falloir faire une séance de rattrapage. Bon, je t'en prie, vas-y, parce que je vais pas te
donc,
trancher les. Enfin bref.
Donc plutôt que de parler de mon épée sacrée, je vais parler de l'anniversaire d'une série où il y a beaucoup d'épées. Puisque hier c'était les 25 ans de Fire Emblem. Une série que j'apprécie beaucoup, je pense que ça s'est compris depuis le temps. Ça fait 25 ans que la série existe, c'est quand même plus
Attends,
trop long.
Ça compte la date de sortie du premier épisode japonais sur Famicom, c'est ça?
Donc c'est donc
si je dis pas de bêtises.
Ouais, c'est ça, c'est le 20 avril 90, c'est sorti Fire Emblem en Kokuryu Toikari no Ken sur la Famicom japonaise.
Voilà, que nous traduirons par Viens là que je te pète le cul.
Ouais, c'est le jeu qui te le dit à toi. Hein, par
Please
contre.
Understand.
Et enfin, au Japon, en tout cas, ça va se traduire par de mémoire la sortie d'un jeu de cartes et une série de concerts, je crois, avec les différents thèmes de la série.
c'est sympa, les concerts.
Ça, c'est sympa. Alors, tu sais, c'est très dommage parce qu'en faisant la playlist du dojo pour les pauses musicales, j'avais envisagé de mettre du Fire Emblem. Je sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça et je l'ai pas fait. Voilà, donc du coup, c'est une émission pas à thème.
Voilà, donc en fait, t'aurais pu faire quelque chose de bien et tu t'es raté.
Voilà, là, je me suis un peu chié dessus. Mais je vous ai préparé quand même des petites choses sympathiques. Merci Antix. Le petit dernier sujet d'actu, c'est moi qui l'ai. Vous connaissez tous le Virtual Boy.
Oui.
Au moins de nom.
Non.
Qu'est-ce que c'est d'horreur.
Bien joué. Donc le Virtual Boy, c'est le truc 3D avant la 3DS avec de la lumière rouge et qui ressemble à des lunettes qui sont montées sur une paire de jambes et qui est juste. J'ai jamais eu l'occasion de l'essayer. J'aimerais vraiment bien un jour en essayer un pour voir si ça fait si mal aux yeux que ça.
Des lunettes sur une paire de jambes.
Bah ça ressemble à ça, hein. Ça ressemble à des jumelles sur une paire de jambes.
C'est un casque sur pied, quoi, en fait.
C'est un casque sur pied.
D'accord. Moi, je savais pas que tu parlais des putes que tu fréquentais quand tu parles de Jobar.
Des jumelles avec une... Attendez. Donc, le Virtual Boy, qui a été un énorme échec de Nintendo dans les années 90, c'est le dernier truc qui a été conçu par Gunpei Yokoi pour Nintendo. Et il se trouve, j'étais très étonné d'apprendre ça, il y a des fans de Virtual Boy. Ce qui prouve qu'on trouve vraiment de tout sur internet, hein. T'as la secte des adorateurs du poireau et t'as les fans de Virtual Boy.
Mais il y a des fans de Justin Bieber aussi, donc bon,
Oui, non, mais c'est chaud. Hein.
Non, ouais. Mais il semblait que les fans de Virtual Boy, ils étaient que dans Tomodachi, Tomodachi Live.
Non, il y en a ailleurs. Il y a notamment un forum qui s'appelle Planet Virtual Boy, qui est une petite communauté, alors c'est vraiment petit, hein. Il y a une cinquantaine de personnes en gros, qui font vivre un petit peu tout ce qui concerne le Virtual Boy et qui ont notamment créé une flashcard pour Virtual Boy, donc pour pouvoir aller flasher des jeux et y jouer directement sur le vrai hardware. Et ils ont aussi créé une petite série de homebrew, donc là ils en sont encore au balbutiement, ils n'ont pas encore tout fait, mais il y en a un sur le forum qui s'est décidé à faire un homebrew sur Snatcher. Alors je sais pas si vous savez ce que c'est Snatcher, c'est le jeu d'Hideo Kojima avant Metal Gear, en tout cas Metal Gear Solid. Metal Gear a dû sortir un peu quand même. C'est une espèce de visual novel qui est un jeu d'aventure textuel, mais façon manga en fait, et qui est sorti sur Mega CD au tout début des années 90, seulement au Japon et aux États-Unis. Et donc le mec s'est dit, bah, je vais prendre ce jeu-là, je vais aller retravailler tout ce qui est artwork et tout ça dessus, de sorte à pouvoir profiter de la 3D du Virtual Boy, et je vais aller mettre tout ça dans une ROM pour Virtual Boy et je vais rendre ça disponible à la communauté. Donc le mec est en train de faire une adaptation, un portage de Snatcher pour Virtual Boy. C'est... Bah, je sais pas, je trouve ça un peu godin, moi. Surtout que le mec dit qu'il va quand même essayer de profiter le plus possible des capacités 3D.
Il va galérer, le mec. Mais bon, en plus, le Virtual Boy, pour avoir essayé une petite minute, même pas, franchement, ça.
Ça t'évanouit.
Non, mais voilà, ça fait super mal à la tête. C'est la 3D de la 3DS à côté, c'est du coton, quoi.
C'est du bonheur.
Ah, voilà, c'est ça. Virtual Boy, au bout de 2 minutes, t'as mal au crâne. Hein.
Alors, j'ai jamais essayé.
Perso, j'ai essayé l'Oculus Rift. J'en suis pas sorti indemne. J'ai essayé 10 minutes, j'ai mis 3 heures à m'en remettre. Alors, à mon avis, le Virtual Boy, je crois que je m'en remets pas du tout.
Non, mais voilà, mais c'est ce que je trouve étonnant, c'est que des gens se disent, on est en 2015 quand même, il y a eu 40 jeux au total produits pour le Virtual Boy, toutes régions confondues. Et. En 2015, pour une console qui a été un échec pareil, les mecs se disent « c'est pas grave, on va aller produire une ROM avec... » Là, il a sorti une démo, il y a à peu près un tiers du jeu.
Ouais, complètement.
Il y a un énorme contenu dans Snatcher. On peut voir... Alors, vous pouvez voir des démos sur YouTube, vous pouvez télécharger l'émulateur Virtual Boy, il marche très bien. Le seul problème, c'est qu'il n'y a effectivement pas la 3D. C'est un peu dommage. Parce que là, les mecs ont vraiment essayé d'en profiter. Et si vous avez un vrai Virtual Boy avec une flashcard, vous pouvez aussi flasher directement la démo dessus. Et la démarrer dans un vrai Virtual Boy, elle marche sur le hardware d'origine.
Ça, c'est quand même pas mal.
Et ça, c'est quand même pas mal.
Ouais, j'ai balancé le lien sur le Twitter, et donc sur le site aussi, vu que c'est automatique. On voit des screenshots.
De la technologie moderne.
C'est vrai que c'est. Fallait oser le faire, quoi.
Fallait oser. Apparemment, les mecs ont l'air de dire qu'ils ont envie de porter d'autres jeux pour le Virtual Boy pour démontrer que c'était une machine beaucoup plus puissante que ce qu'on a bien voulu nous faire croire.
Ils veulent pas le porter à Terminator.
Vraiment faire des trucs. Je sais pas, j'ai pas lu l'intégralité du forum. Parce que
globalement, avec la couleur rouge, on aura le même achievement que dans le film.
Ok. C'est bien, cette blague n'est pas complètement recyclée.
Non, ça ne ressemblerait pas.
Non, mais franchement, c'est pas le genre de la maison. C'est jamais arrivé qu'on recycle des blagues.
Non.
Bref, donc, on va marquer une première petite pause musicale sur ces entrefaits. Cal, non, tu n'as pas le droit de dire ça.
Cal.
nous allons marquer une première pause musicale. Il s'agit d'un morceau de la bande originale de F-Zero GX.
Ouais.
Voilà. Qui s'appelle Feel Our Pain. C'est en fait la musique de Firefield. Je pense que vous savez à peu près ce que c'est Firefield. C'est un niveau extrêmement stressant de F-Zero GX.
Ah bon ? Voilà.
On se retrouve dans à peu près 3 minutes.
Et puis on
tout
parlera
de suite.
Amiibo.
Et on parlera Amiibo.
Ouais.
Amiibo.
Et nous voilà de retour.
Tour.
Pour parler d'Amiibo. On y arrive.
Ouais.
Si un jour on fait un remake de Pokémon avec Méduse, on fera Méduse immortelle, la team Kékette, plus rapide que la lumière.
La team Kékette.
Je pense que la team Kékette, il y a quand même un truc.
Tu sais ce qui serait super marrant, c'est dans Splatoon de pouvoir jouer avec nos bits pour aller la peinture.
Putain, c'est pas cool.
C'est rare, c'est avantageux quand même.
Ouais.
Non mais non, c'est pas gérable. Faut arrêter maintenant.
Ce sera plus Peggy 3.
Bref, les Amiibo. Donc ça fait maintenant, je crois que c'est en septembre que c'est sorti, si je dis pas de bêtises.
Non non, c'est sorti en novembre. Ça a commencé la première vague.
Novembre, pardon, excusez-moi. Je suis à la rue. Je n'ai
avec
pas un seul
grosse,
Amiibo. Hein, je
c'est
précise.
Pas grave.
J'ai
pas
résisté
grave.
Jusqu'à présent. Je ne résisterai pas pour Splatoon. Je le dis déjà. Je l'ai précommandé avec tout le bordel. Ça
ah
m'a coûté un bras. Ah mais moi je suis...
Ouais mais Splatoon quoi.
Voilà,
Splatoon.
Je suis la petite pute de ce jeu.
Voilà.
Je t'ai déjà dit, hein, si aujourd'hui je pouvais y jouer mais qu'il fallait que je mette un plug anal, je le ferais. Et j'y prendrais du plaisir. Sur ces entrefaites, ouais. Donc la première vague c'est novembre, il y a eu des vagues régulières entre les deux où on a eu des nouveaux personnages, il y a eu des rééditions, il y a eu des... Enfin voilà, on a suivi nous de très près ce qui s'est passé au niveau Amiibo, même si je pense que Méduse t'en a pas non plus.
Non.
Et il me semble que Antix, t'en as un ou deux, mais très peu.
J'en ai que deux.
T'en as que deux. Je pense que Jeff et Megaluigi nous mettent une grosse race, du coup. Et peut-être Diraen aussi, d'ailleurs. Je sais pas si t'en as. Si tu...
Non, moi j'en ai que deux aussi.
Oh là là. Bah, t'as vu, Méduse, on est fort.
Diraen, elle a Nuyu depuis pas longtemps.
Oui, c'est vrai.
Elle a déjà deux Amiibo. Nul ne sait comment ça se termine.
Voilà, donc. Je sais pas, après quelques mois de recul, maintenant qu'on a à peu près 6 mois de recul, qu'est-ce que vous pensez du système? Qu'est-ce que vous trouvez qui marche bien? Qu'est-ce qui marche moins bien? Qu'est-ce qui finalement... Est-ce que vous croyez que ça va aller quelque part ou est-ce que vous pensez que finalement ça va se gaufrer un peu comme les Skylanders où aujourd'hui tu peux en acheter 50 pour 10 euros sur le bon coin, quoi, en gros?
Moi j'aimerais bien que ça se casse la gueule et qu'on en trouve 50 pour 10 euros dans les bras. Ce serait cool.
Donc moi je pense qu'au début les gens ils achetaient parce que ça leur plaisait, mais maintenant il y a de plus en plus de gens qui achètent parce que ça devient rare, tu vois. Et il faut c'est la course à la rareté, c'est la course à qui va l'avoir.
C'est-à-dire que tout le monde se dit dans 10 ans mon Amiibo vaudra 4000 euros parce que c'est l'édition je sais pas quoi.
Voilà, c'est ça.
Et parce que la puce NFC sera usée et on pourra plus rien en faire.
Ok, non là d'accord. Un bon point pour Méduse.
Merci.
Je sais pas, Megaluigi, qu'est-ce que t'en penses? Tu crois aussi qu'effectivement il y a beaucoup de spéculation? C'est ce que j'ai l'impression quand tu regardes un peu sur les sites d'enchères ou les sites de vente d'occasion. Effectivement, t'as l'impression que les gens ils croient que parce qu'ils ont l'Amiibo machin de la vague 1, ils peuvent le vendre 50 euros sans aucun problème.
Bah, disons que c'est pas de la spéculation. Enfin, oui, c'est de la spéculation, mais c'est carrément de la folie parfois quand on a certaines vagues ou certains Amiibo qui sont vendus maintenant parce qu'ils sont en boîte à 100 euros, genre le Little Mac ou le Harmony. On se dit, les mecs vont chercher ça où, puis ils vendront jamais au bout d'un moment. Mais c'est vrai que sur eBay, il y a eu des amiibo qui sont partis à facile à 40, 50 euros, qui étaient assez rares de type Shulk ou de type Meta Knight, par
exemple. Et à ce prix-là, ça part régulièrement. C'est-à-dire qu'en gros, si on regarde sur eBay les ventes de ces amiibo-là que Nintendo n'a pas beaucoup fabriqué, il y a des prix qui sont exorbitants, mais ça tournoie autour de les gros amiibo type Shulk, Harmony, Little Mac, tournent autour de ces prix-là. Et ça part. Il y a des gens qui achètent.
Il y a des gens qui achètent, mais comment ça se fait qu'il y a eu des... Comment ça se fait qu'il y a eu des amiibo plus rares? Enfin, je veux dire, après, question d'offre et de demande, d'accord, mais qui peut se permettre de dépenser autant d'argent pour acheter des amiibo si c'est pas pour de la spéculation? Je veux dire, si c'est vraiment pour le plaisir, tu l'achètes le jour de sa sortie, mais tu vas te dire a posteriori, tiens, il m'en manque un pour ma collègue, je vais aller l'acheter, même s'il coûte 50 euros, ça existe, des gens comme ça?
Bah, je sais.
Moi, j'y pense.
Justement, c'est le principe d'un collectionneur, quoi. Il va aller chercher tous les amiibo.
Mais il me manque le Toad et je suis vraiment hyper frustré et je me dis qu'est-ce que je fais, je cède ou pas.
Et le Toad il part vers 30 euros en ce moment, quoi.
Voilà, ouais. Le Toad devient assez rare.
Hein. Déjà.
T'es frustré parce que t'aimes bien la figurine ou t'es frustré parce que tu veux pouvoir t'en servir dans Captain Toad?
Parce que je veux pouvoir m'en servir en fait et parce que je le trouve trop mignon. Mais surtout parce que je veux débloquer les niveaux du jeu et je suis coincé.
Ah ouais, et voilà.
Mais c'est même pas des niveaux en fait, c'est juste un petit bonus. Bon, c'est sympathique, mais pour 13 euros quoi, c'est un DLC figurine, mais en tubage 3000 quoi.
Voilà. On va y arriver. On va venir au sujet.
On y arrive très rapidement quand même. Hein.
Avant qu'on y arrive.
Par contre, en parlant de prix prohibitifs, c'est les amiibo dorés là qui se vendent à 300 euros sur eBay. C'est du délire total.
C'est ah pour oui, de l'or. Hein.
Moi, pour poursuivre un peu l'actualité dans le monde américain sur les amiibo, il y a des gens qui font la queue à peu près jusqu'à 2h du matin à l'ouverture du magasin à 10h. Rien que pour avoir leur amiibo.
Ça me rappelle les Japonais, les consoles à une époque.
À quel point ils ont du mal à trouver. Hein.
Les Américains sont très très friands d'amiibo. Ce que j'ai compris, c'est que c'était le premier marché pour ce genre de choses-là. C'est-à-dire que même le Japon, finalement, en consomme assez peu. L'Europe en consomme pas tant que ça, finalement. Par contre, aux États-Unis, c'est vraiment la folie. Folie complète.
Disons que le Japon, eux, ils n'ont pas forcément la rareté aussi qui joue et qui rentre en ligne de compte parce qu'il n'y a pas eu tant d'amiibo. Si rare que ça. Par exemple, il y a beaucoup d'Européens qui ont importé leur amiibo Harmony parce qu'il manquait en Europe, parce qu'ils n'en avaient pas fait assez. Et ça restait facilement trouvable au Japon. Puis du coup, avec les frais de port, c'était à 30 euros, quoi.
Alors moi, me vient une question. Est-ce que les amiibo sont zonés?
Heureusement, c'est pas le cas.
Parce que, alors là, ce serait vraiment la grosse couillonnade. Mais cet aspect spéculation, vous, ça vous saoule pas? Enfin, je sais pas, si vous avez commencé à vous intéresser aux amiibo.
Oui.
Comment c'est venu déjà? Racontez-nous un peu.
Voilà. Comment vous en êtes venu là? C'est-à-dire, vous l'avez attendu, vous avez vu de vos yeux les vraies figurines lors des présentations avant que ça sorte, vous vous êtes dit, voilà, c'est quoi qui vous intéresse, vous, on va dire, en tant que passionné d'amiibo? Je suis désolé d'utiliser ce terme-là, c'est un peu abusé parce que. On est tous des fans. C'est un peu insultant aussi. Oui. Ça vous réduit un petit peu. Mais voilà, on est tous des fans de Nintendo, donc on a tous probablement une raison. Mais voilà, vous, le déclic, ça a été quoi? L'utiliser dans Smash Bros, c'était de vous dire, bah, de toute façon, ce sera utilisé dans plein d'autres choses. Donc si j'investis maintenant, je pourrais profiter de contenu supplémentaire dans plein de jeux. C'était juste l'aspect, la jolie figurine.
Ben moi, vas-y Jeff.
J'avais acheté une Wii U récemment, et puis je voulais acheter les personnages que j'aimais bien. Et donc, je les ai achetés à un certain prix. Par exemple, je suis arrivé dans ce qu'on appelle l'Amiibo Craze ou l'Amiibo Game, c'est comme ça qu'on l'appelle, assez tard, parce qu'il y a des gens qui sont rentrés depuis le début, depuis la vague 1, et moi j'y suis rentré en février, et du coup j'ai dû acheter des personnages que j'aimais bien, comme Harmony ou Little Mac. Du coup, je peux vous dire que ça a été assez dur.
Ça a été
le gros sport. Et du coup, je m'en suis servi pour... je m'en sers actuellement pour... comme je joue un peu dans le milieu compétitif Smash Bros, j'aime bien m'entraîner contre mes amiibo. Comme ça, ça permet de mieux s'entraîner contre des niveaux 9, des ordinateurs niveau 9.
Ah ouais, ça c'est pas mal ça.
D'accord, donc il y avait l'aspect la jolie figurine, le personnage que t'aimes bien. Mais il y avait quand même l'aspect utilité derrière avec Smash Bros.
Voilà.
D'accord. Mega Luigi, je pose la même question finalement. Qu'est-ce qui fait que toi tu t'es mis à te dire allez, on y va, c'est parti? C'est quoi qui a été le déclic?
Bah, au début, j'ai vu les Amiibo quand ils les ont annoncés, puis je me suis dit, bon, bah, je vais prendre les persos que j'aime bien, Smash Bros, les persos que je prends, que je joue. Et puis, au final, petit à petit, je sais pas pourquoi, je suis tombé dedans, mais comme un bleu.
Dans le piège.
Voilà, je suis tombé dans le piège et je me suis dit, il me faut toute la collection. Donc, pour l'instant, j'ai tous les Amiibo qui sont sortis. Et.
Ah ouais, et... C'est la question, ça fait combien, du coup? Si on compte. Alors, ça compte les variantes?
Alors, dans la série Smash Bros, il y en a 35 qui sont sortis, il y en a 6 qui sortent cette semaine ou qui sont déjà un peu disponibles dans les magasins, ou introuvables déjà. Et il y en a 6 de la série Mario, enfin Super Mario, qui sont sortis pour Mario Party 10. Pour l'instant, c'est ça.
D'accord, donc il y en a en gros une quarantaine, un petit peu plus, quoi, presque 50 au total.
Voilà.
Ben, ouais, c'est ça, 35, 31, 51.
Et il y en a de nouveaux qui vont arriver avec Yoshi Woolly World et Splatoon.
Oui, une seule source.
Là, grosso modo, vous êtes, si vous les avez tous, vous êtes sur à peu près 1000 boules d'amiibo en comptant que vous n'avez pas pu tous les payer à 13 euros.
Voilà.
Enfin, c'est un peu,
50 amiibo.
On peut les payer tous à 13 euros, mais il faut vraiment être au taquet sur Internet, à mettre des plugins et qui nous préviennent en direct des sites quand ils mettent les précommandes d'amiibo. Ouais, parce que
Amazon,
sinon,
pour la vague qui sort vendredi, je crois. La semaine dernière, les précommandes, moi je voulais me choper un Darren et je crois qu'il y avait, j'avais genre une demi-heure pour le commander sur Amazon. J'étais au boulot donc je l'ai pas fait. Et je reviens le soir, je fais ah bah je peux déjà plus quoi.
Ah non, mais oui, mais la vague qui sort ce mois-ci, elle est arrivée sur Amazon il y a à peu près 3 semaines déjà en précommande.
Le 19 février elle est arrivée, hein, la vague 4, hein, enfin la vague de Darren.
Ah oui?
Oui,
ah, vous pouvez les commander depuis février.
Pour vous dire un peu l'anecdote. C'était à peu près 9h20, moi j'étais sous ma douche, je sors de ma douche et je regarde le subreddit Amiibo parce que eux en fait ils tracent tous les sites Amazon, Amazon Allemagne, Amazon France, Amazon Angleterre, etc. Et du coup à 9h23 j'avais vu Amiibo, la dernière vague disponible sur Amazon France. Et donc la vague est partie quasiment à 1h. Ça s'est ouvert à 9h23, à 10h49 il n'y en avait plus.
Putain, mais c'est complètement gueudin.
Ah, oui.
Mais moi, c'est un truc que j'arrive.
Un peu honteux, en fait.
Je trouve ça surtout complètement improbable. Pourquoi Nintendo n'en produit pas plus? S'il y a une telle demande, il y aurait quand même un pognon fou à faire, quoi.
Le problème, en fait, c'est que Nintendo, ils sont partis du principe qu'il y a des personnages comme Little Mac qui sont pas vraiment populaires. Du coup, ils en ont produit moins. Et après, comme ils sont pas populaires, il y a quand même beaucoup de monde qui en veulent. Les fans par exemple ou d'autres personnes qui ont découvert le personnage dans Smash Bros, et donc après ils se disent oh, je vais aller acheter l'Amiibo Little Mac puisque j'aime bien ce personnage, et ils arrivent dans un magasin et il n'y est plus. Ils tombent sur des Mario, des Peach, des Luigi, mais ils tombent pas sur le personnage qu'ils veulent.
Oui, alors tu me rassures, il y a quand même des Amiibo qu'on peut arriver à trouver à un prix normal et qui sont en stock dans les magasins et qu'on galère pas à choper, quoi.
Oh, oui, ça va être des personnages populaires, quoi.
Voilà,
c'est genre les Link, les Samus.
Exactement.
D'accord. Trouvé marf en ce moment, quoi.
Ok. Alors, Antix, tiens, tu nous as pas avoué ton secret honteux, donc toi, pourquoi t'es plongé sur les Amiibo? Parce que tu as plongé aussi, même si t'en as que deux.
J'ai plongé tranquillement. J'en ai que deux, donc qui sont Link et Ike. Link, je l'ai acheté pour avoir la toupie dans Hyrule Warriors, à l'époque où je passais beaucoup trop de temps sur le jeu. Et
moi aussi, je passe beaucoup trop de temps sur ce jeu, c'est honteux.
Ah, j'ai arrêté depuis. Et Ike, je l'ai acheté parce que j'aime bien Ike, en fait, enfin le personnage en lui-même, et que
d'accord.
Globalement, si je veux une figurine de Ike, c'est Amiibo, rien.
D'accord, mais donc du coup, un petit peu comme Mega Luigi et Jeff, finalement, toi, c'est plus le côté, la jolie figurine qui a démarré le truc. Après, t'as le côté, oui, ça peut être utile dans un jeu, mais globalement, c'est plus la jolie figurine.
Globalement, Ike, l'autre intérêt, c'est que je pourrais l'avoir dans Custom avec, mais bon, ça veut dire qu'il faut que j'investisse dans une New 3DS que je n'ai pas encore fait.
Oh, la honte.
Mais pour le coup, Ike, j'ai pas eu de difficulté à l'avoir en précommande. Hein. Je suis allé sur Amazon, j'ai dit, ben voilà, je crois que c'était au début janvier, j'ai dit je le veux, et puis il me fait ok. Enfin,
ouais. Ok, Diraen, puisque tu n'as pas beaucoup parlé jusqu'à présent.
Oui, en fait, c'est parce que pendant qu'on parle, j'ai trouvé un taux d'à 20 euros sur Amazon, donc c'est en train de faire.
Achetez tous le taux d'à 20 euros avant Diraen, vite.
Là, c'est une bonne affaire, là.
Videz les stocks. Oui, d'accord, donc tu es très concentré sur ton numéro de carte bleue. Tu peux le donner en direct, s'il te plaît, à nos auditeurs.
Pas de problème.
Voilà. Non, ça.
C'est quoi la question?
Alors, c'est vous regardez en haut à gauche le numéro.
Alors, non, la question c'était qu'est-ce qui toi t'a fait plonger sur les Amiibo? C'est-à-dire, comment toi t'as acheté, pourquoi t'as acheté les premiers? Est-ce que c'était vraiment juste pour la figurine? Ou est-ce que c'était pour le côté collection? Parce que je peux comprendre qu'il y a des gens aussi qui aiment bien collectionner ce genre de choses-là. Ou est-ce que c'est pour aller utiliser dans Smash Bros, dans Captain Toad, dans je sais pas quoi d'autre?
Alors déjà, moi j'ai vendu mon âme au Disney Infinity. Donc j'en ai beaucoup trop, ça me coûte beaucoup trop cher. Donc quand ils ont sorti les Amiibo, j'ai fait c'est pas une bonne idée. Je les ai vus quand ils ont été présentés juste après l'E3. Je les trouvais pas spécialement jolis.
Attends, tu rigoles, ils étaient plus jolis que les figurines de production. Hein.
Bah pour le coup, Peach avait une culotte.
Peach a plus de culotte.
Peach a plus de culotte, hein. D'ailleurs, la photo de la culotte, je l'ai trouvée sur FranceFan.
Attendez, ça, il faut que ça parte sur le Twitter du dojo, bougez pas.
T'inquiète, je m'en occupe.
Mais, ok, merci Méduse.
D'ailleurs, pour l'anecdote, la photo que t'avais pris quand on était allé voir les jeux après l'E3, je l'ai retrouvée sur 4chan quelques temps après.
Oui, mais j'ai l'habitude.
Non, mais voilà, ça m'a fait rire de l'avoir.
Non, mais c'est bien, je suis content. Donc, Diren, non, t'as pas laissé terminer. Donc, t'étais pas convaincu quand tu les avais vus à l'événement de juin 2014 organisé par Nintendo?
Exactement, j'étais pas convaincu. Et puis, je me disais que de toute façon, il y avait pas moyen que je passe ma thune là-dedans. Et j'avais plus de place. Donc, j'avais décidé qu'ils passeraient pas par moi. Et quand j'ai vu le Link Cartoon, moi j'étais en train de faire Wind Waker. Et j'ai juste fait « Oh, il est trop mignon, faut que je le prenne !» Donc je l'ai pris, et j'ai eu la même chose avec Kirby, que j'ai vraiment trouvé adorable. Et que j'ai... Voilà, je les ai achetées juste parce qu'elles sont mignonnes, parce que c'est des personnages qui me plaisent beaucoup, mais c'est tout, quoi. Et je m'étais dit « Je vais m'arrêter là. » Puis après, il y a eu Toad, et après, je doute pas qu'il y en aura encore d'autres.
ça y est, ils t'ont accroché, c'est fini.
C'est le problème, il y en aura d'autres.
Et puis Toad, il est tout mignon aussi, quoi. C'est vraiment, il y en a plein qui sont tout mignons, ouais. Qu'on veut avoir et tout.
C'est ce qu'on disait la semaine dernière, les Kirby, les Yoshi en laine, bon bah voilà, c'est mort. Il y aurait les trois.
Il y a trois Yoshi en laine, putain, j'ai pas
ouais. Oui, un bleu clair, un vert.
Oh
un...
putain, c'est pas possible.
Non.
Et je pense très honnêtement qu'ils vont en faire plus que trois.
Et on espère qu'il y en aura de.
Ils vont
de
faire des masques en laine, c'est obligé.
Ils vont faire le Pucci.
je sens que ça va partir en couille.
T'imagines, ils font un masque à 100 laine, on peut l'utiliser dans Yoshi, machin truc, on pourrait l'utiliser dans Mario Kart.
Non, arrête.
Même dans Captain Toad, ils intégreraient un DLC
peut-être
masque.
Peut-être même que dans Splatoon.
Un masque à 100 laine, faut pas en parler de ça.
Imagine, ils font un DLC masque à dans Captain Toad, tu dois poursuivre Captain Toad, tu joues un masque à 100, et hop, avec Amiibo.
Mais sans laine. Mais...
Ça coûterait trop cher de faire un DLC masquasse pour juste vendre des amiibo, quoi.
Il
ce serait pas rentable.
Il le ferait pour la hype.
pour la gloire. Mais du coup, enfin, je sais pas, là on discute, j'ai l'impression que bon, tout le monde s'est fait harponner, ou presque. On va dire que Méduse et moi-même, on
moi,
est des vrais hommes.
Moi, c'est plus par limitation financière qu'autre chose, mais j'avoue que, tu vois, l'amiibo Splatoon avec le poulpe là, avec le jeu. Ben, c'est déjà plus disponible en précommande, mais j'aurais bien sauté dessus. Et Yoshi en laine, franchement, je le trouve juste super bien fait. Quoi.
Alors, personnellement.
Mais à part ça, Nintendo, c'est des fils de pute sur l'amiibo.
Ça, c'est dit.
Moi, effectivement, jusqu'à présent, c'est pas une question financière parce que j'en ai rien à foutre. Mais j'avais pas envie de. Enfin, je sais pas, je trouvais que le système était quand même. Déjà, au départ, je trouvais que le système était un peu abusif. Est-ce que vous trouvez pas que Nintendo va un petit peu loin quand même? Parce que.
Bah moi,
au départ, c'était.
Ils se foutent vraiment de la gueule du monde.
Là, je pense qu'ils se foutent
de la
gueule. On est d'accord.
Que c'est des fils de pute.
Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, ils génèrent de la frustration chez leurs fans. C'est-à-dire que les gens qui sont. Je parle pas des hardcore, les tarés qui effectivement,
juste les gens qui aiment les jeux, quoi.
C'est ça.
Les gens qui ont Nintendo 64 3DS, ces jeux.
Les fans de base, ils sont en train de générer de la frustration chez eux et ils sont en train de faire des ponts d'or aux spéculateurs qui potentiellement n'en ont rien à foutre de Nintendo mais ont vu là un bon moyen de se faire de la thune. Donc en fait, tout le monde est perdant et je trouve que ça ternit l'image de Nintendo en fait.
Oui, j'avais lu un pareil sur Reddit, je vois que Jeff est aussi sur Reddit, ça me fait plaisir, un monsieur qui expliquait que ben voilà, c'était vraiment ridicule et que comme Nintendo gagnait pas de pognon, ben, la solution c'était de faire crasher les ultra fans le plus possible, quoi.
Oui, d'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a quelqu'un qui déteste le personnage d'Harmony, il la déteste vraiment, il peut pas la supporter parce qu'il trouve qu'elle a rien dans une...
J'ai vu ça.
Voilà, une Sega Smash Bros. Et donc, il a acheté 100 Amiibo Harmony et pour que les fans ne l'aient pas, et il comptait les revendre au prix fort.
Putain, mais c'est quel bâtard!
Moi d'ailleurs, pour ce qui concerne ça, ce qui me pose le plus problème, c'est que de plus en plus, Nintendo offre des contenus à la limite exclusive dans leur jeu avec des amiibo, donc ça peut être les personnages de Fire Emblem, Knockout Steam, ou les, je crois, certains objets qui seront uniquement chez les amiibo pour Splatoon. Et le problème, c'est que derrière, ils suivent pas au niveau de la production. C'est-à-dire qu'on a du contenu qui va être inaccessible.
Oui, non, mais
et pas uniquement.
En fait, le problème, c'est que tu t'achètes ton jeu quand même au prix fort. Enfin, t'achètes un jeu complet au prix fort. Tu payes 40, 60, 70 euros en fonction du jeu. Et derrière, t'as une partie du contenu qui est amputée si t'as pas d'amiibo. Alors, il y a un côté un peu vicelard au truc. C'est qu'une fois que t'as un amiibo, globalement, il peut servir pour débloquer des trucs dans plein de jeux.
Ouais, mais tu sais pas dans quoi il va servir.
Mais tu sais pas
rien en dehors de Smash Bros, par exemple, pour l'instant. Et enfin, l'autre truc qui me pose problème, c'est que t'as ce contenu qui est uniquement accessible avec les amiibo, et certains de ces amiibo sont quasiment introuvables. Donc du coup, t'as un contenu auquel tu n'auras jamais accès parce que ce qui te permet de le débloquer n'est même pas disponible, en fait. Et moi, c'est plus ça qui me pose problème, en fait.
Le truc, c'est que avec l'amiibo, Nintendo, ils ont en quelque sorte matérialisé le contenu dématérialisé, tu vois.
Oui, c'est ça. C'est exactement la remarque qu'on se faisait en novembre, d'ailleurs.
Le truc, du coup, c'est que, tu vois, moi, bêtement, moi qui suis joueur, mais qui aime bien avoir mes expériences de jeu complètes et pas des jeux amputés et tout ça, je me vois mal, déjà, acheter un amiibo pour jouer à un jeu vidéo. Je me vois encore mal... être amputé d'un contenu et de pas avoir de possibilité d'y accéder juste parce qu'il n'y a pas d'amiibo sur le marché, tu vois.
Ouais, mais après ça dépend du type de contenu, parce que pour l'instant dans les amiibo qui débloquent un contenu supplémentaire, ils nécessitent pas d'avoir l'amiibo en lecture et en écriture, ils utilisent juste la fonction lecture NFC. Donc c'est-à-dire que si on a l'amiibo, on peut ensuite le passer à des potes, et par exemple donc dans Mario Kart 8,
ouais.
On a les costumes.
C'est Mario Kart 8, c'est la version belge.
Ouais.
Donc avec ça, on peut débloquer des costumes de Mii, et il suffit juste de l'avoir une fois, et puis c'est bon.
Mais même, enfin, les costumes de Mii, à la limite, on est dans le concept où c'est du.
Ça sert pas à grand chose.
Voilà. C'est vraiment du bonus cosmétique. C'est-à-dire, effectivement, t'as des amiibo, bah, tu peux débloquer le costume de ton personnage préféré, tout ça, c'est sympa. Smash Bros aussi, finalement, c'est une fonctionnalité assez annexe, qui est pas inintéressante en soi, mais qui est quand même assez annexe. Par contre, je sais pas, les jeux où, enfin Mario Party 10 par exemple, t'as tout un mode de jeu qui est bloqué si t'as pas d'amiibo.
Ouais, mais bon, ils te vendent quand même le jeu en pack à entre 40 et 50 euros avec un amiibo.
Oui, donc, d'accord. Si tu l'as pas acheté en pack, moi je l'ai pas acheté en pack. J'ai pris normalement et je me suis rendu compte qu'il me manquait un tiers du jeu, quoi.
Mais après, il suffit de n'importe quel amiibo, l'amiibo de Pikachu de Smash Bros qu'on a déjà pour pouvoir débloquer le. Oh non, je dis peut-être une bêtise d'ailleurs. Peut-être qu'il faut que les amiibo de la série Mario.
A priori, c'est ça.
Mais on peut prendre un Mario de Smash Bros quand même, ça c'est sûr et certain. Après, il faudra que je vérifie pour un Pikachu ou des choses comme ça.
Alors la question que j'aurais posé, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des logiciels qui vont permettre de dupliquer des amiibo, qu'on va pouvoir trouver des bibliothèques de codes amiibo et que depuis ton smartphone tu vas pouvoir envoyer le code en lecture du truc.
Ce sujet.
Ça m'étonnerait pas, voilà. Comme disait Mortal, je crois. Avant,
oui.
Sur Reddit, il y a un autre subreddit qui s'appelle Amibro, et en fait, c'est des gens qui se sont dédiés à casser le mode de fonctionnement des amiibo pour pouvoir exploiter et créer des amiibo virtuels à volonté, en fait.
C'est pas compliqué, quoi, techniquement.
Voilà. Et donc, en fait, ces gens travaillent justement pour pallier à la pénurie. Par exemple, si dans un jeu, tu as envie d'avoir par exemple, comme pour moi, m'entraîner face à un Little Mac. Tu pourras télécharger les données du Little Mac dans ton amiibo et faire comme si c'était un amiibo Little Mac. Par contre, je pense qu'il va falloir avoir un amiibo, un même pour pouvoir utiliser ça.
Il faudra peut-être avoir au minimum un amiibo, mais à la limite, ça fait moins d'investissement que d'en acheter 50, quoi.
Oui, mais après, on pense que Nintendo va vite patcher ça parce que ça
va pas clair. Les téléphones font NFC aussi, hein, faut pas oublier les détails.
À voir si c'est faisable aussi, parce qu'un amiibo, c'est jamais qu'une puce NFC qui contient à peine un cas de mémoire, quoi.
Oui.
C'est-à-dire trois fois rien. Et je suis pas sûr, enfin, Mortal, toi peut-être tu sais, mais je suis pas certain qu'il y ait un cryptage au-delà de la quantité de données.
Alors en fait, le fonctionnement du NFC est un truc un peu particulier. Je vais pas m'attarder sur les détails parce que c'est un petit peu compliqué. Mais en gros, si, il y a une espèce de clé de chiffrement qui devrait en théorie t'empêcher de rejouer une transaction. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu vas lire l'intégralité de la transaction entre la console et l'amiibo. Donc si t'avais la capacité de lire l'intégralité de la transaction, tu pourras pas forcément la rejouer. parce que chaque transaction est différente. Il y a quand même une clé de chiffrement qui est renégociée à chaque fois. Je ne sais pas exactement le détail, parce que je me suis intéressé au NFC il y a quelques semaines de ça pour un petit projet au boulot, mais je n'ai pas eu le temps de vraiment creuser dans la spécifique.
Tu voulais faire des faux amiibo
Non, je voulais faire un lecteur de carte bleue avec une portée d'à peu près 50 cm pour arnaquer les gens dans la rue.
Ah oui, mais Docteur PC a fait ça, et il a juste... faire fonctionner plein de trucs pour tester, quoi. Il y a un super dossier dans un des canards hardware à ce sujet-là.
Voilà, il y a des choses. Voilà. Donc, le protocole NFC en lui-même, il sera cassé un jour, c'est évident. Parce qu'un cas de mémoire, ça fait pas assez de toute façon pour contenir une clé suffisamment solide. Maintenant, moi, je trouve que ce qui serait intéressant, c'est plus d'avoir effectivement une appli pour mobile, par exemple, qui serait capable de simuler un amiibo ou de simuler une collection d'amiibo, parce que dans ces cas-là, avec juste ton téléphone, tu pourrais faire à peu près n'importe quoi.
Oui, ça, ce serait super pratique.
On y vient. Il y a justement un membre de ce subreddit qui a créé une application Android où tu poses l'amiibo sur le téléphone et après, lui, ça lui permet de récupérer les données de l'amiibo pour des fins de recherche.
Voilà, ils en sont déjà là. Ils en sont effectivement à la lecture complète du truc et à vérifier ce qui se passe. Parce que c'est quand même une norme ouverte, malgré tout. C'est pas un truc spécifique à Nintendo. J'en profite pour rebondir là-dessus, mais est-ce que vous pensez que le ras-le-bol est proche? Est-ce que vous croyez que les gens vont finir par se dire, bon, quand ils font chier là maintenant, ça coûte une boule, il y a que les spéculateurs qui en profitent au final, les vrais fans n'en profitent pas vraiment, ça bloque du contenu dans des jeux, c'est quand même un peu lamentable. Surtout que là, c'est vraiment de pire en pire. C'est-à-dire qu'effectivement, au début, c'était vraiment cosmétique, et là, maintenant, on commence vraiment à débloquer des pans entiers du jeu comme ça. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un rejet en masse et qu'on va pouvoir trouver dans des brocantes à 2 euros plein d'amiibo?
Moi, ce qui me pose problème, c'est que, dans ce que tu dis, c'est un parti vrai, parce que au début, c'était démarré en cosmétique. Et maintenant, par exemple, pour Splatoon, on sait que les amiibo Splatoon vont débloquer des tenues et des armes que tu ne pourras pas débloquer autrement.
Oui.
Du coup, en gros, si tu veux les tenues et les armes comme ça, il va falloir que tu aies les amiibo, Splatoon, ou que tu te les prêtes, puisque ça sera en mode lecture seule. Du coup, par exemple, si un pote à toi a l'amiibo femme et l'autre l'amiibo homme, tu pourras quand même les poser sur ta Wii U pour débloquer les armes, mais il te faudra les amiibo.
Est-ce que on pourrait imaginer qu'il y ait une espèce de bourse aux amiibo entre des fans qui s'envoient des amiibo pour justement s'entre-débloquer tout un tas de trucs et pas s'emmerder comme ça?
Putain, mais j'y pensais aussi, figure-toi.
Ça existe. Aux États-Unis. Aux États-Unis encore, ils ont créé un subreddit qui s'appelle Amiibo Swap. Et en gros, ils postent leur post avec des amiibo qu'ils ont et les amiibo qu'ils veulent. Et il s'échange des amiibo.
C'est assez artisanal, quoi. Mais bon.
Ah oui, il y a une culture de l'amiibo aux États-Unis qui est assez monstrueuse, quand même. Hein.
Ouais. Non, mais il y aurait moyen de faire un site web assez intelligent pour ça, quoi, pour les fans et tout, tu sais, avec un petit système de caution.
On pourrait faire un truc.
C'est le genre de truc qui serait super pratique, quoi. Tu vois, genre, bon, voilà, t'as un pote ou machin truc qui veut faire Hyrule Warriors, bon, bah, il cherche un amiibo Link, il demande, hop. Il en a un prêté pendant un temps, et en échange, lui, il prête son ami Botod ou je sais pas quoi. Et voilà, quoi.
Oui, il y aurait moyen de faire un truc. Est-ce que vous pensez qu'on va arriver aux États-Unis? Moi, j'imagine bien des chaînes comme Best Buy ou Video Store ou des choses comme ça qui feraient de la location d'amiibo.
Oh, putain.
Non, mais ça peut arriver, ouais. Ce serait pas si bête que ça, quoi. Quand on voit juste des costumes ou des trucs comme ça, hop, on paye 2 euros.
Je suis pas sûr que ça enthousiaste le Nintendo que ce soit fait par des chaînes officielles.
En même temps, qui c'est qui a essayé d'enculer tout le monde au départ, hein? Bon.
Ouais. Voilà.
C'est aussi, hein. Oh.
Quand même.
Ouais, mais il te demande toujours de sourire pendant qu'il te met un doigt. Donc,
Please understand. Il y a AKFG Fragment sur Twitter qui nous dit que Nintendo va ressortir des amiibo rares fin 2015 pour mettre fin à la spéculation.
Ouais, oui, non, parce que franchement, il y a des amiibo rares. Ils ont déjà remis des petites vagues d'amiibo sur Fnac qui seront disponibles le 30 juin. Donc, on avait Shulk, on avait Roi Dadidou qui était très rare et introuvable aujourd'hui. Ils les ont remis, ils sont tous partis en un quart d'heure.
On parle de restock. Les gens disent que oui, il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour la spéculation, il y aura des restocks amiibo. On parle de restock infime. Ça va être la dernière chance pour les gens de l'avoir.
Moi, ce que je pense qui serait intelligent, en fait, c'est que si Nintendo veut vraiment a une volonté d'enrayer la spéculation, ce serait de s'affranchir des boutiques en ligne et de travailler uniquement avec les magasins physiques, de balancer un stock équivalent par magasin, tu vois, selon les demandes, etc. Et c'est tout, quoi. Puis, tu vois, comme ça, il y aura au moins même s'il y a des gros spéculateurs, les mecs ils vont pas pouvoir parcourir tous les pays du monde à la recherche d'un max d'amiibo et tout ça. C'est pas Pokémon la vraie vie, quoi, tu vois.
Ouais, mais oui. même dans les magasins physiques,
ça laisserait une fenêtre pour les gens, quoi.
Même dans les magasins physiques, il y a plein de problèmes d'approvisionnement, parce que par exemple, pour la vague qui sort là, il y en a 4 qui vont être très rares, et les magasins en reçoivent un seul de chaque, donc c'est vraiment... Ah oui, c'est ça. Ça part super vite.
On peut se considérer chanceux en France, parce qu'aux États-Unis, ils ont des exclusivités selon les magasins. C'est-à-dire que le Meta Knight, par exemple, pouvait être acheté que à Walmart ou à Best Buy, je crois. Et il y a l'Amiibo Mario, je crois que c'était que à Walmart, le gold, et etc. Et donc, ils ont plein de limitations comme ça. Et donc, la rage aux États-Unis sur le système d'amiibo augmente parce que les gens ne peuvent plus trouver leur amiibo. C'est limité à certaines chaînes et il y en a de moins en moins. La production ne tient pas la demande.
Mais comment ça se fait, moi, c'est un truc qui m'étonne parce que quand t'as une horde de fans qui est là, genre shut up and take my money, parce que c'est à peu près ça, tout le monde serait prêt à payer 13€ son amiibo d'Adidou ou son amiibo machin. Il n'y a pas que des spéculateurs, je suppose qu'il y a aussi des vrais fans qui, s'il y avait des quantités suffisantes, seraient très contents de l'acheter, ou des gens qui veulent avoir la collection complète, hein, tout bêtement, qui seraient peut-être très contents de l'acheter. Qu'est-ce qui branle les mecs? C'est quoi, ils n'ont pas assez de petits chinois pour pédaler, ou...
Je pense que c'est ça, hein.
Moi, je pense qu'ils n'ont pas prévu... Ils n'ont pas prévu autant d'engouement pour ça.
Et puis il y a aussi le fait que ça leur évite d'avoir à gérer des stocks. C'est-à-dire que tout ce qu'ils produisent, ça part, quoi. Et le stockage, c'est ça qui coûte le plus cher. Donc eux, ça leur permet de vraiment se faire un max de thunes là-dessus.
Et puis aussi, pourquoi on parle des amiibo? Parce qu'il n'y en a pas. C'est aussi con que ça. Parce que s'il y en avait, il n'y aurait pas un buzz autour. Il y avait même des articles sur Le Monde.
À la sortie de la Wii, c'était la rupture, et puis les gens, ils étaient fous, quoi.
Bah, c'est toujours le marketing de la rupture, quoi. Le marketing de la pénurie, il y a un peu de ça, forcément, aussi.
Ça se tient. Et c'est vrai que sur Nintendo, ils sont pas trop mauvais, quoi.
Donc, on est quand même... Alors, est-ce que, sur une perspective de plus long terme, est-ce que vous pensez que dans, je sais pas, une dizaine d'années, par exemple, il y aura vraiment... les amiibo super collector parce qu'ils ont été donnés, j'ai vu aujourd'hui qu'il y avait un amiibo Megaman métallique qui serait donné, il n'y en avait que 5 exemplaires ou 10 exemplaires au résultat d'un concours à Las Vegas, enfin, est-ce que vous pensez que ce genre de choses complètement folles va atteindre des prix fous, ou est-ce que vous pensez que finalement tout le monde en aura plus rien à foutre et que ça va s'éteindre tranquillement?
Il y a quand même des gens qui font des amiibo customisés qui sont juste magnifiques, et ça je crois que ça peut vraiment apporter une grosse valeur à l'amiibo en question.
D'ailleurs,
et aux amiibo en général.
Pour rebondir sur ce que tu dis, il y a des magasins aux États-Unis qui ont commencé à se mettre en partenariat avec certaines personnes privées pour vendre des amiibo custom.
Putain, mais c'est de la folie, quoi. Tu vas les vivre aux USA.
Et pendant,
Luigi, tu penses que ça va dans 10 ans les amiibo, enfin, voilà, on se sera souvenu de la folie amiibo de 2015, mais que finalement tout le monde aura passé l'éponge, on n'aura rien à foutre et il y aura tellement de collectionneurs ou de choses comme ça.
On pensait ça à propos de Pokémon il y a 20 ans, il y a 15 ans, tu vois.
C'est pas forcément la même chose les amiibo, parce que déjà, est-ce que ça va survivre au saut de génération, forcément, ou est-ce que ça va être une mode qui va rester... Bon, si ça reste 3-4 ans, ce sera déjà pas mal, quoi. Ça peut être une mode comme les jeux musicaux, contenu un peu, avec des accessoires, un peu comme ça. Je vois pas ça tenir éternellement non plus, parce que les gens vont se lasser, et... Bon, il y a Lego qui va se mettre à faire des figurines NFC.
Tout le monde se met à faire des figurines NFC.
Au bout d'un moment, ça va saturer, et l'intérêt va se perdre. Il n'y a que des fans, et... Bon, Nintendo a la chance d'avoir des licences fortes et des personnages forts de jeux vidéo qui vont intéresser des gens.
Avec un anus très grand.
Voilà. Et donc, moi, je pense que ça va pas... Enfin, ça peut durer 3-4 ans. Après, je le vois pas recommencer sur une nouvelle génération encore la même chose.
Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis.
Ouais, je sais pas jusqu'au conseil.
D'accord.
En tout cas, pour revenir, pour se recentrer un peu sur le jeu vidéo vite fait, moi, ce que je trouverais intéressant par rapport au contenu qui n'est accessible qu'avec des amiibo, c'est que ce contenu-là, on puisse aussi l'acheter en DLC déjà, ce serait une bonne chose.
Ou le débloquer dans le jeu.
Ouais, voilà, et que pour les gens qui ont un amiibo, bah, soit le contenu est gratos ou voilà débloqué, ou soit il est à très bas prix pour certains contenus un peu différents, quoi, tu vois.
Tu proposes qu'on te mette un doigt au lieu de te mettre tout le poing, quoi.
Ouais, voilà.
Ou en tout cas, mettre de la vaseline.
Non, mais après c'est une question de principe, hein. Moi personnellement je peux pas juger, hein. Bref, on va marquer une deuxième pause musicale si ça vous dérange pas. Sauf si Megaluigi a quelque chose à rajouter.
Non, juste pendant qu'on se parle, parce que moi j'ai les petits plugins qui s'activent.
Ils se tripotent les amiibo pendant qu'on se parle.
Non. les petits plugins qui s'activent. Et là, le petit plugin vient de m'indiquer que sur Amazon.fr, les fiches produits des amiibo de Len de Yoshi sont arrivées. Mais on peut pas encore le précommander. Donc on devrait pas tarder à pouvoir le précommander.
Il va falloir que tu me passes ton plugin.
Je crois que Irène a réussi à acheter son amiibo Captain Toad déjà.
C'est... Oui, tout à fait. Il n'y a rien de sexuel là-dedans.
À la seconde où je l'ai acheté, il n'y en avait plus.
Alors, putain, comment faire ah, pas de chance. C'est de la faute de Megaluigi qui en a acheté un vite fait.
Moi j'ai quand même une. Je vais demander en off à Megaluigi parce que moi j'aimerais bien avoir un Splatoon avec un petit squid parce que c'est le seul truc qui m'intéresse.
Moi je veux juste un poulpe en fait.
Moi, je veux juste le poulpe.
Même tu vires la puce NFC, je veux le poulpe.
Voilà, juste le poulpe.
Ouais, d'ailleurs, excuse-moi de t'interrompre, AKFG Fragment qui nous dit un commentaire très pertinent sur Twitter, nous dit « Avez-vous pensé aux imprimantes 3D si on arrive à dupliquer les puces NFC ?»
Je pense que c'est pas possible parce que c'est des CMOS qui sont quand même très 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 compliqués. Donc autant
parce que les imprimantes 3D c'est déjà pas évident.
Tout à fait. Autant dupliquer des amiibo, ça va peut-être déjà pas être très très simple parce qu'il y a en général ils sont faits en plusieurs parties. Mais alors faire de l'impression 3D, y compris de la puce, je pense que ça va être très compliqué. Par contre, de la reproduction de puce NFC, ça existe. C'est un process qui est relativement cher aujourd'hui, mais ça existe et donc ce serait théoriquement possible.
Donc potentiellement on pourra avoir notre DLC sans avoir besoin d'amiibo.
Bah sauf qu'aujourd'hui je pense que si tu devais le faire tu paierais la puce reproduite 5 fois plus cher que... Donc je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Bref, nous allons marquer une petite pause musicale parce que il commence à se faire tard. Je t'ai déjà dit pas cal.
Ah merde.
Sauf quand je dis matière fécale.
D'accord.
Voilà. Nous allons nous écouter un autre petit morceau de la BO de F-Zero GX. Il s'agit de Infinite Blue, qui est le thème de Big Blue.
Ah, oh, tiens.
Voilà.
C'est l'air bien avec l'actu de jeudi.
Je sais pas ce qu'il y a.
Ah oui,
c'est
le mode F-Zero dans Mario Kart 8.
Et bah voilà,
plus, sur tout le circuit de Big Blue.
C'est presque thématique.
Ah,
on se retrouve dans un petit peu plus de 3 minutes. À tout de suite. Et nous voilà de retour.
Tour.
Vous criez pas tour, Megaluigi. Vous êtes pas.
Tour.
Merci.
Tour.
Vous êtes pas corporate. Non, c'est bon.
Tour. Pour ça.
Non, c'est bon.
Attention, il y a un amiibo là-bas. Regarde, il y a un amiibo qui t'attend.
Je les ai tous. Ça marche pas.
Il va tous les avoir. Voilà, j'aimerais qu'on reprenne notre débat de la semaine dernière. Je pense que c'est pour ça que D-Rain est revenu d'ailleurs parce qu'elle
c'était il y a deux semaines en fait.
C'était il y a deux semaines, mais c'est pareil. Moi, je viens toutes les semaines. Hein, vous vous rendez pas compte.
Le podcast c'était la semaine dernière, donc ça
c'est
passe.
Pas grave. Le podcast c'était la semaine dernière, donc ça passe. On avait démarré un petit débat sur les notes dans les jeux vidéo, c'est-à-dire est-ce que effectivement c'est quelque chose d'obsolète, est-ce qu'il faut les supprimer, est-ce que voilà. Et on n'avait pas eu le temps malheureusement, donc vous avez essayé, enfin Méduse en tout cas a essayé de nous donner une petite recette de cuisine pour dire bah voilà moi ce que quand je dois me faire un avis sur un jeu, voilà comment je fais. Quelque chose d'intéressant, on va essayer de revenir un petit peu dessus un petit peu plus tard. Ce que j'aimerais bien, c'est revenir sur quelques systèmes alternatifs qui ont été proposés à la vulgaire note sur 100, sur 20, sur 10. Alors, je sais que vous n'êtes pas d'accord sur le fait qu'il faut noter les jeux. Je vais vous donner un exemple très bête dans lequel vous avez besoin, en tant que consommateur, d'avoir une évaluation. C'est un très mauvais exemple, mais je vous rappelle que le jeu vidéo est un produit culturel, donc c'est à la fois de la culture, et c'est à la fois un produit réalisé par une industrie. Donc vous avez forcément besoin de savoir comment ça s'évalue. J'ai fait un petit test rigolo avec un certain nombre de mes collègues, Mes collègues me servent de cobayes assez souvent. Hein. Faudrait que je leur dise que je mets du brodure dans leur salade.
C'est déjà, ils arrivent à servir de Kobe, c'est déjà un bon début.
C'est déjà un bon début. J'ai pris leur smartphone, j'ai été dans le magasin d'applications, j'ai tapé le mot-clé casse-brique, et je leur ai dit, voilà maintenant lequel tu télécharges.
Ouais.
Voilà, des applications de casse-brique, tu tapes ça sur un App Store quelconque, t'en as 50 qui vont sortir. Donc voilà, le premier réflexe des collègues, ça a été systématiquement de le classer en fonction du nombre d'étoiles, donc en fonction de l'évaluation des utilisateurs.
C'était gratuit ou pas,
si c'était gratuit ou pas, et même pas forcément. J'en ai d'accord. Deux ou trois qui m'ont dit je préfère avoir un. Enfin, casse-brique, c'est un exemple bête, je lui ai dit de supposer qu'il avait envie de prendre un casse-brique.
Ouais, d'accord, je vois, tu vas venir. Ouais.
Voilà. Et donc je lui ai dit, le mec, il dit même si c'est 1, 2 euros, j'irai peut-être pas jusqu'à 4 ou 5, mais 1 ou 2 euros, si le truc a une bonne évaluation, pourquoi pas. Donc. Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais en tant que consommateur, vous avez de temps en temps besoin d'être quand même un petit peu guidé par ne serait-ce qu'une évaluation.
Moi, ce que je pense, c'est que nous, pour qu'ils nous intéressons quand même vraiment à ce qui sort et à l'actualité, la note n'est pas obligatoire, mais...
Je pense au monsieur lambda. Hein.
Et le monsieur lambda, s'il veut son FPS de fin d'année, qui doit choisir entre Battlefield et Call of Duty, il prend celui qui est le mieux noté.
Voilà, c'est ça, c'est exactement l'exemple
que tu m'as fait penser à ça.
Tu as dit exactement ça, mot pour mot. D'ailleurs, ce n'est pas Antix, c'est une bande enregistrée. Vous êtes démasqué, monsieur.
Depuis le début, c'est des fractions de mots des différentes émissions que Mortal met à la suite en direct. Il est très
en fait, le mec, il joue à Smash Bros et il tape sur des boutons, ça fait deux phrases. Hey, je balance celle-là.
C'est parti. Voilà, non mais il y a quand même un petit besoin d'évaluation. Je suis d'accord, ouais. Quand on suit bien l'actualité, je suis d'accord avec le point de vue de Méduse là-dessus. Avoir un simple quelqu'un qui te dise écoute, ce qui marche bien dans le jeu, c'est ça, ce qui marche pas bien, c'est ça, ça peut largement suffire, mais c'est quand même un critère d'évaluation, malgré tout.
Oui.
Ouais, mais c'est pas basé sur un nombre pour lequel chacun met ce qu'il veut derrière, tu vois.
Oui, t'as un critère beaucoup plus subjectif.
Un 7 sur 10, si je te dis que ça vient de chez Gamekult, tu sais que c'est plutôt pas mal. Si je te dis que ça vient de jeuxvideo.com, c'est un jeu poubelle, tu vois, c'est. Voilà, tandis que quand tu apportes des éléments qui permettent aux gens de dire voilà, la replay value est intéressante parce que machin, directement ça parle plus, quoi. Enfin, je veux dire, tout le monde comprend ça.
On est d'accord sur le principe. Du coup, j'aimerais vous proposer de critiquer quelques systèmes qui avaient été proposés dans de précédentes émissions, qui ont été proposés par différentes personnes, pour justement faire cette évaluation-là. Je sais qu'il y a un certain nombre de gens qui ont planché sur le sujet en se disant voilà, il faut donner une indication au consommateur lambda. Je parle bien du consommateur lambda, hein. Pas du spécialiste, pas du connaisseur, pas du mec qui suit l'actu. Donc du coup, je vous donne quelques systèmes, vous me dites éventuellement ce que vous en pensez et s'il y en a un parmi le lot qui pourrait servir de base à une bonne formule. Le premier système que j'ai vu, c'est le système qu'utilise Giant Bomb. Je sais pas si vous connaissez Giant Bomb.
Ouais.
Voilà, ils utilisent un système un petit peu intelligent quand t'as un compte Giant Bomb. En tout cas, ils le faisaient il y a quelques années. Je sais pas s'ils le font toujours, hein, j'ai pas vérifié, mais ils te demandaient d'entrer des informations, genre oui, alors j'ai 30 ans, je suis un mâle hétérosexuel, j'ai 30 ans. Des trucs comme ça. Et les mecs te disaient, bah voilà, les mâles hétérosexuels de 30 ans, donc les gens qui sont dans ta catégorie socio-professionnelle, ta catégorie d'âge et ainsi de suite, leur jeu préféré c'est ça, ça, ça et ça. C'est-à-dire finalement, ce qui plaît aux gens de ton type, c'est ça. Qu'est-ce que vous penser de ce système-là.
Donc ton orientation sexuelle ou ton genre détermine le genre de jeu que tu vas aimer.
C'est une indication, c'est pour te dire, voilà, les gens de ta génération qui ont ta culture, qui sont abonnés à tel thread du forum, qui sont... Voilà. L'idée c'est de dire les gens qui te ressemblent, ou qui, selon un certain nombre de critères, qui peuvent être très discutables, et c'est de dire les gens qui te ressemblent, ils ont tendance à plutôt jouer à ça. Donc si c'est le genre de jeu qui t'intéresse, ça peut être intéressant.
Bah c'est sûr, si c'est le critère du sexe ou de l'orientation sexuelle, c'est absurde. Si c'est le critère
c'était une boutade.
D'accord. Ouais, mais si c'est le critère de
on a pensé... c'était une blague.
Si on a non mais c'est pas la même chose du tout entre ça et par exemple si on a posté des messages sur le forum Call of, et bien évidemment, on va te conseiller le prochain Call of, quoi. Après, c'est plus un algorithme, en fait.
C'est de dire, je sais pas, c'est un peu comme le Nintendo, finalement, utilise un système assez standard. Si vous avez déjà fait des évaluations, laissé des évaluations sur l'eShop ou sur le 3DS ou de la Wii U, finalement, on te dit, est-ce que c'est un jeu pour les joueurs expérimentés ou pour les novices? Est-ce que c'est tout le temps machin? Ils ont pris 2-3 critères comme ça, mais faut pas rêver. Ils gardent les critères, ils savent que tu es un homme et que tu as tel âge. Donc finalement, ils peuvent arriver à t'orienter un petit peu d'une certaine manière, à te dire, voilà, les gens qui sont des joueurs expérimentés et qui aiment bien jouer à ces jeux de manière intensive, et qui ont ta moyenne d'âge et qui ont ton sexe, ton machin, ton truc, ils ont plutôt tendance... Alors, si les mecs ont ton sexe, méfie-toi.
C'est pas important.
C'est important. Ils ont tendance à préférer ce genre de jeu-là. Je sais pas, est-ce que ça vous évoque quelque chose ? Megaluigi, ça a plutôt l'air de le choquer de dire, finalement, on me range dans une catégorie.
Moi, ça me fait penser aux recommandations d'Amazon.
C'est presque
ouais,
ça.
Ouais, ou parce que tu visites telle page, tu...
Ouais, c'est ça. Donc c'est...
Non, mais ça peut être...
Ça peut être un bon moyen de découvrir un jeu, mais de là à savoir si je vais me plaire ou pas, c'est dur à dire, quoi.
Ouais, ou alors il faut que tu te dises, tiens, bah, ça m'a fait découvrir un jeu, j'ai joué et effectivement j'ai kiffé. Tu vois, si tu répètes ce genre d'expérience-là, alors tu peux finir par te dire...
Ça, c'est la méta de Netflix, ça.
Tu peux finir par te dire, bon, ben... À quoi je jouerais bien, je vais aller voir sur mon profil Giant Bomb ce qu'on me suggère, puisque ça a déjà marché 2-3 fois.
Mais voilà, c'est ce que disait, ce que c'est identique, ça ressemble beaucoup au système de Netflix finalement.
Mais est-ce que c'est pas ce qui est le plus logique, c'est-à-dire que d'essayer d'établir un profil en fonction de tes appétences, des choses qui t'ont plu et des choses qui t'ont déplu?
Je sais pas, le problème, le risque, c'est la bulle. C'est ce que...
Alors, tu sors pas de ta zone de confort, en fait.
Tu sors jamais de ta zone de confort, le risque, c'est ça.
Mais d'un autre côté, je sais pas si tu te souviens, il y a 2 semaines, on disait justement que... Enfin, je sais plus qui disait, moi j'aime bien lire mes tests sur tel site écrit par machin, parce que je sais qu'il a fait les mêmes goûts que moi.
C'est moi qui ai dit ça. Elle dit rien aussi, d'ailleurs.
Voilà, on est à peu près dans ce genre de système-là, quoi, tu vois. Sauf qu'au lieu d'aller lire un test, tu as juste une recommandation faite par un algorithme, parce qu'il y a des gens...
L'intérêt de ce système-là, c'est que c'est aussi un système presque collaboratif. C'est-à-dire, finalement, tu vas donner des renseignements, tu vas nourrir l'algorithme avec des renseignements personnels. Les autres utilisateurs font pareil, c'est-à-dire, tu vas dire, bah voilà, je suis un mâle hétérosexuel de 30 ans, et... mes 3 jeux préférés du monde entier, c'est celui-là, celui-là, celui-là. Il y a plein d'autres gens qui font ça. Et finalement, tu vas arriver à te retrouver, entre guillemets, groupé par communauté. L'algorithme va être capable de dire, bah voilà, les mâles hétérosexuels de 30 ans dont le jeu préféré est Majora's Mask, bah, il y en a pas beaucoup, il y en a ce genre-là. Et puis, bah, leur 2e, 3e, 4e, 5e, 10e jeu préféré, ça va être à peu près ça. C'est Splatoon, ça va devenir le meilleur jeu de tous les temps. Je suis désolé, c'était l'instant Splatoon. D'ailleurs, je passe un petit message à Nintendo France. Si tu veux nous envoyer des amiibo Splatoon gratos, parce que on est tes super potes, hésite pas.
Ah ouais, faut qu'on fasse des tests avec des notes.
On va le mettre 11 sur 10. Je pense que ça va plaire à Nintendo.
On va mettre 6 étoiles Gomba sur 5.
Voilà, 30 sur 40. Non, merde, ça, je me suis gouré. Bref, donc. Ce système-là, vous, il vous paraît finalement pas complètement déconnant. Après, est-ce que le fait d'être mis dans une bulle, c'est-à-dire est-ce que le fait de finalement d'être enfermé dans un genre et de vous ressasser toujours la même chose, est-ce que vous avez pas peur que c'est le syndrome Amazon, quoi. T'as cherché dildo dans le moteur de recherche, c'est foutu, quoi. Le truc, il va te proposer des shurikens qu'on met dans le cul.
Ouais, mais la bulle. Enfin, je pense qu'au niveau algo, c'est pas très compliqué de péter la bulle, tu vois. Il suffit de te faire cocher.
Tu réécouteras cette phrase au podcast.
Ça y est, tu m'as complètement déconcentré.
Bref, non, tu disais casser la bulle, c'est-à-dire aller te dire je sors complètement de ma zone de confort, mais combien de personnes vont faire ça?
Non, mais il suffit juste de proposer une petite case à cocher, ou tu sais, un bouton genre Google, j'ai de la chance, quoi.
Proposez-moi quelque chose de complètement différent.
Proposez-moi quelque chose d'original, mais pas trop. Ça t'évitera aussi de tomber sur des grosses bouses.
Enfin, ou des trucs que tu voudras jamais jouer, quoi.
Par exemple.
D'accord. Bon, c'est intéressant. Je vois que il y a quand même un petit faisceau où vous n'êtes pas complètement contre ce genre de système.
Bah, c'est bien si vraiment ça te permet de découvrir de nouveaux, enfin des jeux auxquels tu n'aurais pas forcément pensé et qui s'approchent de ce qui te plaît, quoi. Enfin, de ce qui te plaît. Ouais. Bah, ça peut donner lieu à des bonnes surprises si c'est bien fait et que t'as un peu de chance.
Ouais, après, faut voir comment c'est foutu aussi, parce que si, je sais pas, on va se voir un forum d'un jeu pour troller ou je ne sais quoi, qu'après ils croient qu'on aime bien ce jeu-là, enfin bref, ça peut tout casser, quoi.
C'est que la dernière fois que j'ai dit que Final Fantasy c'était un chef-d'œuvre, attendez.
Après, c'est passé la fin du monde, non, c'est ça, hein?
Ouais, c'est un peu ça. Mais en même temps, je suis sorti de ma, à titre personnel, petite anecdote personnelle, je suis sorti de ma zone de confort il y a peu de temps concernant un certain type de jeu, ce qui sont les shoot'em up. J'ai jamais vraiment accroché au shoot'em up, j'ai jamais été un grand fan de shoot'em up, et je me suis mis à jouer à un ou deux shoot'em up qui était censé être pour débutants, c'est-à-dire vraiment le truc, voilà, tu veux découvrir ce que c'est que le shoot'em up, voilà, tu prends ces deux trois jeux-là.
Non,
t'as dépassé le stage.
Super à l'est, Ikaruga. Alors Ikaruga pas forcément pour débuter, mais parce qu'il est bon.
Il est très très bon.
Parce qu'il est bon. Pas pour débuter, hein. Mais Super à l'est, attends, Super à l'est par exemple, c'est un truc. Alors je connaissais pas du tout ce jeu. Et Axile, des jeux comme ça, c'est-à-dire vraiment du shooter un peu pas forcément très connu, mais des choses qui sont finalement assez faciles à aborder pour un débutant.
Ah, Axile et Ikaruga, ça reste quand même très connu. Hein.
Oui, Axile éventuellement, je connaissais pas du tout. Hein. Voilà. Et j'ai découvert que parce que moi quand j'étais petit, je considérais que le shoot 'em up, une fois que t'en avais fait un, t'en avais fait 1000. Et en fait non, j'ai découvert que non, il y avait des subtilités et que finalement c'était même assez plaisant dans certains cas. Et j'ai commencé à mettre à Gradius et j'ai commencé à jouer à R-Type. Voilà, c'est le genre de truc où effectivement, des fois, tu peux découvrir un genre complet que t'as complètement zappé dans ta vie parce que ça t'intéressait pas, quoi.
Pour le coup, Gradius et R-Type, c'est plus des shoots pour débutants, j'aurais dit. Enfin, plus que Ikaruga, par exemple.
Plus qu'Ikaruga, mais Ikaruga, après, il est intéressant aussi dans la façon dont il fonctionne. Mais c'est vrai que, voilà, je me suis mis à jouer à des shoot'em up un peu par hasard parce que je me suis dit, tiens, j'aimerais bien réessayer ce truc-là. Il y a plein de gens qui jouent à des shoot'em up, je comprends pas pourquoi. J'aimerais bien essayer de m'y mettre aussi. Voilà. Donc sortir de sa zone de confort, c'est pas toujours facile à faire. Ça a pris un petit peu de temps comme processus, mais je suis capable d'apprécier un shoot'em up. Ce qui est quand même pas... C'est pas évident.
Ouais, une fois de temps en temps, quoi.
Voilà, tu vas faire les RPG.
Je ferai pas ça tout le temps. Je vais essayer.
Oh, Earthbound.
Non, je peux pas. Celui-là, je peux pas.
Traumatisé.
Trop chelou.
Ah, c'est pour ça qu'il est bien. Hein.
Alors, je vous propose un deuxième système à critiquer, puisque je suis sur la lancée. Il y avait le camarade Frosties qui avait proposé il y a quelques mois dans un dojo bar, quand il était un petit peu allumé, qui avait dit chez Nintendo Man, on avait réfléchi à un système de notation dans lequel on ne donnerait pas une note, mais on donnerait un prix. L'idée étant de dire, je sais pas, tu vois par exemple Sonic Lost World, le prix c'est moins 170. C'est-à-dire si quelqu'un te donne 170 euros
ça et Sonic Lost World,
ça peut commencer à être diable. Donc voilà, l'idée c'était de dire, le jeu il est vendu... En fait, un produit culturel, tu vas pas l'apprécier de la même manière en fonction de si t'as payé ou pas. Un exemple très bête, j'ai payé ma place de cinéma pour aller voir Beowulf avec Christophe Lambert. Voilà, non mais
à ton âme.
Non mais du coup, voilà, je suis. Quand tu ressors de la séance, t'es vraiment pas content. Je l'aurais téléchargé en DivX quelques années plus tard ou quelques jours plus tard. C'est-à-dire, j'aurais payé zéro finalement pour le voir. Ça m'aurait peut-être fait rigoler. Voilà, tu vas pas apprécier les choses de la même manière. Si t'as payé.
Le problème de ça, c'est que le prix que t'es prêt à mettre dépend aussi de tes moyens. Donc il y a des gens qui ont des grosses poches pleines de bifetons. Et pour eux, payer un jeu 60 euros, ça va être beaucoup, beaucoup moins problématique que pour d'autres personnes.
Mais de toute façon, t'es vénère. Enfin, l'idée de base, c'est de dire. Méduse, tu fais des... Voilà, excuse-moi. L'idée de base, c'est de dire, est-ce que le jeu vaut 60 euros sur l'étagère ? C'est-à-dire, si t'as un budget jeu, alors je suis d'accord avec toi, tout le monde ne peut pas mettre 60 euros dans un jeu tous les mois, il y a des gens qui ont des budgets à respecter, mais si t'es prêt à mettre 60 euros dans un jeu, est-ce qu'il les vaut vraiment ? C'est plus ça l'état d'esprit.
C'est... Je sais pas, moi je trouve ça un peu dommage finalement de rapporter la valeur d'un jeu à sa valeur marchande, mais... Je crois qu'on avait eu un débat comme ça par rapport à la durée de vie et le prix sur Nintendo Man. Enfin, là où c'est un peu dommage, c'est que on va pas forcément accorder la même valeur à un type de jeu que d'autres. Enfin, clairement, je sais que toi tu mettras mais jamais 60 euros dans un RPG, façon, moi je serais capable de le faire.
Quelle que soit la manière dont t'exprimes ce que tu penses d'un jeu, il y a forcément des gens qui seront pas d'accord avec toi dessus, tu vois. Donc ouais, forcément, c'est subjectif.
Pour ça.
Mais
pour ça que ramener le jeu à une valeur marchande, moi je trouve que c'est encore pas.
Alors,
c'est pas très bon, quoi.
Ça dépend. Quand tu fais un petit peu de rétro gaming, quand tu t'intéresses un petit peu à ce marché-là, qui est le marché de l'occasion, de tout ça, tu te rends compte qu'il y a aussi des jeux qui sont largement surévalués.
Ouais, quand on est à un stade où tu dois payer 150 euros pour pouvoir jouer à un jeu, c'est quelque part, faudrait peut-être plus que tu te rabattes sur d'autres solutions. Enfin,
oui, non, mais on est d'accord sur le principe. Maintenant, toujours pareil, hein, y a des gens qui veulent jouer sur avoir l'expérience originale. Moi, c'est vrai que j'aime bien avoir le vrai jeu dans la vraie console avec la vraie manette sur la vraie télé pourrie. Ça fait partie un petit peu du délire aussi. Maintenant, simplement, ce système-là, il pourrait être intéressant dans la mesure où tu pourrais te dire, voilà, un jeu comme Earthbound sur Super NES, puisque t'en parlais tout à l'heure, aujourd'hui, il cote entre 120 et 130 dollars en loose. Aux États-Unis, la version anglaise coûte à peu près ça. Il y a tout un tas de gens qui sont prêts à mettre ce prix-là. Est-ce qu'il vaut vraiment ce prix-là? Pas seulement pour le caractère rareté, pour le caractère en tant que jeu, vaut-il réellement qu'on paye plus finalement que son prix d'origine?
Alors, pour ça, je vais citer un très bon jeu qui s'appelle Monkey Island. Jamais payé plus de 20€ pour un jeu vidéo.
Donc tu n'as pas payé Bayonetta 2 le jour de sa sortie.
Donc ça, c'est fait. Non, si je l'ai payé le prix fort, mais c'est Bayonetta 2.
Ouais, non, voilà, non, mais tu vois, je suis sûr qu'il aurait été 10€ plus cher, t'aurais été prêt à payer 10€ de plus, tu vois.
Bah, en même temps, moi j'ai pris la version avec les deux jeux.
Oui, voilà, mais je veux dire, tu vois ce que je veux dire, tout le monde est capable. L'avantage
de ce... J'ai une limite, tu vois, il aurait été à 100€ avec les deux jeux, j'aurais pris aussi, que le 2, quoi.
Voilà, moi aussi j'ai une limite.
Le 1, j'ai déjà fini.
L'avantage de ce critère-là, c'est que ça reste un critère purement objectif, tu peux pas faire plus objectif que le prix. Le prix, c'est le critère objectif par excellence. Et en même temps, ça te permet de juger un jeu. Quand je te dis Sonic Lost World, ça vaut moins 170€, c'est pas une blague, il aurait vraiment fallu qu'on paye ça.
Sonic Lost World, j'ai même pas envie de jouer, donc le payer,
si
c'est encore
la
question.
Si on te donne 170€.
Moi, je veux bien faire l'effort parce que comme ça, je peux m'acheter Splatoon.
La vraie question, c'est combien d'heures de ta vie il va te prendre?
Beaucoup trop.
Et du coup, quel est ton tarif horaire?
Mon tarif horaire.
50€ la journée, charge incluse.
Mortal, il fait tout, hein, donc ça
fait cher. Non, mais moi, je suis facturé 1500€ la journée, si tu veux, donc je peux pas me permettre ce genre de choses-là.
Mais sur, pour jouer à un jeu qui te fait chier, il faut. Enfin,
oui, mais tu le sais pas forcément bien au départ. Enfin, non, il y a des fois, tu t'as un petit doute. Sonic Boom, par exemple, j'ai eu une espèce de doute à un moment.
Ah bon ?
C'est pas comment t'as fait pour
l'avoir. C'est pas le fait de l'avoir testé à l'événement E3, qui t'a mis
Alors, figure-toi que je l'ai pas tellement testé, hein. On était ensemble tous les deux, j'ai tenu la manette en main. Quoi ? 5 minutes ?
Je t'entendais pleurer pendant que je jouais à Mario Party 10.
C'était un souvenir mémorable. Ce que je me rappelle, c'est surtout la gonzesse qui tendait la manette, qui était un peu dépitée, qu'on repose le truc au bout de 5 secondes, l'air dégoûté. Bref, donc, je sais pas, qu'est-ce que vous... Enfin, voilà, vous avez exprimé un petit peu vos avis, mais Megaluigi, par exemple,
je... j'ai pas exprimé le mien, mais t'as pas exprimé Megaluigi. Lui, Megaluigi parlait avant, sinon il aura plus rien à dire.
Voilà, mais allez, vas-y, parce que là, je te sens chaud patate.
Sur le prix, sur une notation sur le prix, non, j'ai pas grand-chose à dire. Non, mais c'est vrai, enfin, ça dépend vraiment des personnes.
Non, mais imagine, on le fasse pour les Amiibo, c'est-à-dire, on te dit finalement, le roi d'Adidou, il est tellement beau, il vaut largement ses 50€.
Non, mais ça, ce n'est pas la peine, ça. Mais c'est pas la même chose non plus pour un Amiibo. Non, le jeu en lui-même, pour moi, un jeu neuf, ça vaut 40-50€. Si on veut l'avoir tout de suite et en profiter dès le début, il va valoir plus cher. Et puis, c'est pas une question forcément de prix aussi, parce que quand on a la possibilité d'avoir tous les jeux, on y joue pas forcément, quoi. C'est comme le Humble Bundle, on achète des jeux à 5 ou 10 dollars et puis on y joue jamais, quoi. Ils traînent au fond du Steam.
Ou bien 10 voilà, centimes, quoi. Comme un crevard.
Voilà.
Je présente Méduse, le mode crevard.
Alors, ouais, je l'ai fait qu'une fois.
Ouais, faut mettre les 5 dollars pour avoir les jeux les plus intéressants maintenant. Ils ont amélioré le système, quoi.
Non, parce que les jeux plus intéressants, ils sont pas intéressants, en fait. Mais enfin, ouais, mais n'est pas la, voilà. N'est pas la question.
Méduse, donne-nous ton avis sur ce système-là, parce que je sens que tu as beaucoup de choses à dire.
Mais j'avais déjà pensé à ce truc-là il y a déjà un paquet d'années, je voulais le proposer pour la prochaine version du dojo. C'est-à-dire que peu importe ce que tu penses d'un jeu, il y a toujours un moment où tu vas raccrocher la question du prix parce que ton jeu, tu vas le payer, sauf si t'es un enculé qui pirate ou qui achète ses jeux sur Humble Bundle à 10 centimes. Et donc, par exemple, si tu prends Splatoon, tu vois, il va sortir à 40€. Je veux dire, si on parle pas du prix, de toute façon, le jeu, ça va être de la bombe. Et du coup, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire, bon, combien coûte le jeu? 40€, je fonce dessus. S'il avait été à 20€, je fonce encore plus dessus. S'il avait été à 60, je fonce dessus quand même, tu vois. Mais il y a des jeux pour lesquels c'est pas le cas. Tu prends Captain Toad, ok, il est cool, mais 60€, ça va faire mal, tu vois. Il y a la question du prix, c'est pas
anecdotique, on est d'accord. Ça peut être un vrai critère.
Ça peut être un vrai critère, mais qui doit pas se substituer à une évaluation autre du jeu sur un autre système, en fait. Tu vois, il y a des jeux avec lesquels je me suis un peu amusé, tu vois, mais que j'ai acheté en connaissance de cause, en sachant que j'allais juste un peu m'amuser avec, mais je les ai pris parce qu'ils étaient juste pas très chers. Je les aurais pas pris au prix plein, tu vois. Battlefield 3, par exemple, tu vois. J'avais Kratos à 1€, je l'aurais jamais acheté, quoi.
T'es un bâtard.
Tu vois. Mais vraiment, 1€, j'aurais pas mis 1€ dans ce jeu, faut pas déconner.
Alors, moi, pour finir sur ce critère, je tiens à signaler que Gameblog l'a utilisé à un moment.
Ah non, c'est sale. Ah.
Voilà.
Ah. Ah, je me sens souillé maintenant. Tu comprends pas souillé comme on a.
Mais ça peut être un repère, mais tu peux pas juste en servir comme ça, tout simplement parce que le cours de l'argent change déjà, tu vois. Le prix des jeux, il change aussi. Tu peux l'avoir en occasion. T'as des serveurs qui peuvent être débranchés quand après un certain temps, et tu peux jouer en ligne.
Et tu peux plus jouer à Battalion Wars, et du coup, t'es triste et tu pleures.
Par exemple, tu vois, voilà, Battalion Wars 2, il a perdu beaucoup de valeur depuis qu'on peut plus jouer en ligne.
T'es recroquevillé sur ton canapé et tu chiales avec ton pouce dans la bouche parce que tu peux plus jouer avec tes potes.
Voilà.
Je voudrais vous en proposer un petit dernier qui a fait un petit peu débat, même en interne, c'est-à-dire qu'on en a discuté beaucoup sur le forum. C'est le système qui avait été proposé par Un Drop dans la Mare. Je pense que vous connaissez à peu près tous Un Drop dans la Mare. Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille d'aller jeter un œil parce que c'est vraiment intéressant ce qu'ils font.
Mais bonjour et bienvenue dans Un Drop dans la Mare. Aujourd'hui, nous allons parler des Amiibo.
Ce qui serait super bien, c'est que tu fasses un partenariat avec eux, et alors vous feriez, je sais pas, un test de quel est le meilleur amiibo pour servir de plug anal, par exemple.
Je pense que c'est. Non, je
et
pense que c'est d'autres pour
une
la
valeur
taille.
Tarifaire. Ouais.
Je sais pas, Little Mac pour les points ou Davidou pour la taille.
Ou Kirby pour les débutants.
Bref, je n'ai pas envie d'aller voir Amiibo Dildo sur Reddit, parce que je pense que ça doit exister. Donc le système proposé par Un Drop dans la Mare, c'était de dire, voilà, plutôt que de mettre une note pour les graphismes, une note pour machin, qui est déjà un système un peu à la con, faut quand même être honnête, ou de mettre une note globale, l'idée c'était de dire, est-ce que par rapport à la moyenne de ce qui se fait, c'est-à-dire par rapport à l'état de l'art de l'industrie, est-ce que ce jeu est au-dessus de la moyenne, est-ce qu'il est en dessous de la moyenne, ou est-ce qu'il est dans la moyenne? Par exemple, on pourrait dire, voilà, au niveau des graphismes, les mecs ont fait un énorme effort, le jeu est super beau pour un jeu qui tourne sur PS3 en 2007, il est vraiment ultra beau. Ou alors au contraire, bah, le jeu il est finalement très en dessous de ce qu'on pourrait attendre. Est-ce que la narration, voilà, est-ce que l'histoire est très 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 bien racontée, que c'est vraiment surprenant, qu'il y a des rebondissements, qu'il y a ci, qu'il y a mi, c'est, voilà, est-ce que c'est vraiment très très bien raconté, beaucoup mieux que la moyenne, très en dessous de la moyenne. Ça permettrait par exemple, un exemple qui était donné directement, de se dire que bah, un Mario, effectivement, en termes de gameplay ou de jouabilité, il est largement au-dessus de la moyenne en général, mais en termes d'histoire, bah, il est largement en dessous de la moyenne, mais c'est pas grave, pour ce genre de jeu-là, on s'en fout. Il est en dessous de la moyenne de ce qui se fait, bon, bah, voilà, il est en dessous de la moyenne de ce qui se fait. Si de toute façon, ce qui t'intéresse pas, si la narration est quelque chose qui ne t'intéresse pas, ce critère-là, tu vas moins le regarder, ou tu le regarderas, on va dire, de manière un petit peu différente. Parce que, voilà, la notation, le problème de la notation standard type jeuxvideo.com, c'est qu'il y a quand même une note de scénario pour un Mario.
Ouais, Megaman, pour Game Trailer. Ça m'a toujours choqué, hein.
Voilà, c'est complètement con. Ça permet aussi de s'adapter au style de jeu, de dire, voilà, un shoot'em up, ce qui est intéressant, c'est, je sais pas, les graphismes, la musique et la jouabilité. Et éventuellement, le système de score ou le système de jeu en lui-même. Mais c'est pas le scénario, tout le monde s'en branle, quoi. C'est le scénario de 90% des shoot'em up, je peux te le faire sur un ticket de métro.
Alors en plus, quand il envahit les niveaux, c'est insupportable.
En plus, c'est horrible.
Bon, du coup, je vais en profiter.
Vas-y.
Pour ce qui était là, il me semblait qu'il y avait aussi une histoire de... Est-ce que par rapport aux promesses de l'éditeur aussi, le produit final correspond?
Il y avait un dernier critère qui était là, genre la hype, c'est effectivement par rapport à ce qu'on nous avait promis et vendu, est-ce que on a respecté la promesse?
Bon, ils avaient
il me semble qu'il y avait quelque chose comme ça.
Ouais, ils avaient utilisé Assassin's Creed comme exemple parce qu'ils aiment bien taper dessus. Mais il me semble qu'il y avait ça et c'est peut-être celui que je trouvais le plus intéressant en fait. Enfin, prendre du recul par rapport aux promesses marketing, du coup, est-ce que ce qu'on nous a vendu correspond vraiment à ce qu'on a dans les mains? Et moi, je trouve que c'est peut-être le critère le plus intéressant.
Si ça pouvait calmer les éditeurs sur le bullshit qui nous sortent sur certains de leurs jeux, ce serait une note qui aurait le mérite d'exister.
Quand même, pour que tout le monde sache, voilà, on vient d'évoquer Assassin's Creed, on signale quand même que Diraine bosse chez Ubisoft et qu'elle vient de dire le mot bullshit juste derrière une phrase avec Assassin's Creed.
J'ai dit l'éditeur.
Je veux pas balancer.
Parce que Le
comportement de la balle est encore plus réaliste. Tous les ans, le comportement de la balle est réaliste dans FIFA. Je sais pas si vous avez remarqué par rapport à l'année précédente, je veux dire.
La gestion des pénalties est améliorée.
Vous voyez le visage de Ibrahimovic, encore plus la pitoyabilité est encore plus visible.
Encore plus Zlatan.
Encore plus Zlatan.
Mais, ouais, mais là on rejoint, tu vois, en ayant un truc où on se dit, voilà, un machin, genre les promesses des éditeurs ou un truc plus haut que la moyenne, Ça veut dire que tu t'adresses pas vraiment au mec lambda grand public qui joue un peu sans trop savoir. Tu vois, pour lui, dépend, pour la moyenne, ça veut rien dire, il connaît
si,
rien.
Si, 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 parce que si on lui dit, ouais, ben, visuellement, c'est au-dessus de la moyenne, niveau narration, c'est au-dessus de la moyenne, ben, il connaît pas la moyenne, mais il sait que ce jeu-là.
Il sait que ce jeu-là, il a bénéficié d'un effort particulier par rapport à ce point-là.
Voilà, il sort du lot par rapport au reste.
C'est-à-dire que les mecs qui aiment bien en prendre plein les yeux quand ils jouent à un jeu, je connais des gens comme ça qui aiment bien. Je connais quelqu'un qui a apprécié Rise sur Xbox One.
Oh putain.
C'est-à-dire que le mec qui te dit, voilà, moi ce que j'ai bien aimé, c'est tiens, tu démarres un niveau. Alors effectivement, tu fais tout le jeu d'affilée, c'est chiant, mais le mec te dit, voilà, tu démarres un niveau une fois de temps en temps, t'as des effets de particules partout, tu coupes des trucs, il y a des machins, ça pète de partout, voilà. Et lui, ça lui plaît d'avoir un jeu spectacle. Pourquoi pas, il y a des gens à qui ça plaît, donc tu peux dire qu'effectivement ce jeu-là, en termes de graphisme, enfin de réalisation technique, on va dire, il était largement au-dessus de la moyenne de ce qui se faisait au moment de sa sortie.
Maintenant, après, ça, la difficulté, c'est de définir c'est quoi la moyenne à un temps
donné. Ouais. Moi, ce qui me pose problème, c'est que la notion de moyenne, les productions culturelles, tout dépend du degré d'exigence de chacun déjà, mais pour moi, la moyenne, c'est très insuffisant. Et pour moi, la moyenne dans plein de types de productions culturelles, que ce soit dans la musique ou dans le cinéma ou dans les jeux, c'est, les trois quarts, c'est au moins à la poubelle, quoi, tu vois.
Ah mais donc, j'ai pas dit, justement...
La fenêtre, elle est un petit peu trop ouverte.
Faisons le parallèle avec le cinéma, si vous le voulez bien. Je vous rappelle que pendant de nombreuses années, les films catastrophes, ça a été la mode. Donc c'était Le Pic de Dante, Independence Day, machin, tous ces trucs-là. De fin des années 90, on avait
début 3 films. Même.
Voilà, Volcano, enfin on avait 3 films de catastrophes par an quasiment. Et finalement, voilà, le premier qui est sorti et qui a lancé cette mode-là, je sais pas exactement lequel c'est, mais tu peux te dire, voilà, celui-là il était au-dessus de la moyenne, celui-là ça valait le coup d'aller le voir. Et puis, je sais pas, arrivé au deuxième ou au troisième, tu peux te dire, oui ben ça va, c'est un film catastrophe, on en a eu 5 cette année, c'est bon. Ce que je trouve intéressant dans ce critère-là, de se dire finalement, est-ce que par rapport à la moyenne de ce qui se fait, on est mieux ou on est moins bien, c'est que ça permet finalement d'évaluer presque tous les types de jeux de manière assez objective, entre guillemets, je mets objective vraiment avec des gros guillemets, vous voyez ce que je veux dire. Ça permet d'évaluer à peu près tous les types de jeux, ça permet de jauger aussi le travail qu'a fait l'éditeur derrière, et de se dire, est-ce que le mec a bossé et a essayé de faire quelque chose d'original, quel que soit le secteur dans lequel il l'a fait, c'est-à-dire est-ce que graphiquement il a essayé de faire quelque chose d'original, ou est-ce que le mec s'est contenté finalement de faire un copier-coller du truc qui marchait bien, c'est Watch Dogs, hein, je veux dire Assassin's Creed rencontre Splinter Cell, avec des hackers, voilà. Globalement, Watch Dogs serait un jeu extrêmement moyen. C'est dans la moyenne de ce qu'on fait graphiquement, c'est dans la moyenne de ce qu'on fait en termes de gameplay, tout ça.
C'est alors que Assassin's Creed, mais bon,
voilà, peut-être au-dessus. Non, quand on nous l'a présenté, mais alors qu'un Assassin's Creed 2 serait peut-être un petit peu au-dessus pour tout un tas de raisons.
Ouais, mais si on reprend l'exemple de ton pote qui aime les jeux spectacles, tu vois, lui, ce qu'il va rechercher, du coup, ça va être un jeu qui soit très au-dessus de la moyenne en termes de réalisation technique, visuelle au moins.
Tout à fait.
D'accord, jusque-là. Bon, d'accord. Alors après, vu qu'on n'est plus à l'ère de la NES et que du coup, techniquement, on a plein de possibilités,
Il y avait des jeux impressionnants sur NES, monsieur.
Tu vas comprendre d'où je veux en venir, c'est que à l'heure actuelle, au niveau de la direction artistique, on a 12 000 possibilités, etc. Et que du coup, un jeu comme GTA V sur PC qui est super bien réalisé, ou un jeu comme Crysis 3 sur PC qui est plein la gueule, super bien réalisé, ou un jeu comme, je sais pas moi, Ori and the Blind Forest, dans un genre tout à fait différent, ils en mettent tous les trois plein les yeux, mais ils ont c'est des genres et des directions artistiques complètement différentes, et du coup, le mec, il veut peut-être juste avoir en prendre plein les yeux, mais il sait pas sur quoi il va en prendre plein les yeux, quoi. Il veut peut-être en prendre plein les yeux sur le dernier PES machin truc avec l'herbe encore plus réaliste, encore mieux arrosée que les précédentes, tu vois. Mais finalement, je veux dire, on va lui proposer des expériences de trucs super bien foutus, mais il ne saura pas vraiment laquelle correspond à ce que lui, intrinsèquement,
de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de système parfait, hein, très clair là-dessus. Ouais. C'est une proposition qui était intéressante pour essayer d'évaluer ça. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Hein, c'est effectivement, si tu as 4 jeux qui sont au-dessus de la moyenne graphiquement, comment tu vas faire pour te dire lequel je prends?
Non mais de toute façon le mec il sait très bien dans le genre de jeu aussi qu'il préfère. Si c'est un mec qui joue à Rise, Ori and the Blind Forest, ça va peut-être pas l'intéresser du tout, et quand il va voir le jeu il va même pas pensez à regarder le test ou pensez à l'acheter.
On sait pas, on sait pas.
Oui, c'est possible, oui, mais après, c'est qu'il est ouvert d'esprit, mais sinon, je vois pas.
Alors, le mec d'Emrise, il doit déjà être très ouvert, je pense, hein, tu vois. Parce qu'il faut s'infliger, quoi, quand même, tu vois.
Non, mais je pense qu'à petite dose, pourquoi pas.
Enfin, moi, j'ai bien aimé, mais bon.
J'aimerais bien le faire, juste pour voir comment ça se joue
Attends qu'il sorte sur PC.
Mais il est déjà sur PC.
Et ben voilà.
Il a déjà été à 10 euros plein de fois, mais j'attends qu'il soit à mon... Je sais pas, 5 euros, allez.
Tu vois, t'as réussi à l'évaluer, tu l'as évalué à 4 euros, 3 euros.
En fait, j'achète plus de jeux tant que Splatoon n'est pas sorti. Après, je verrai son possibilité.
Bref, est-ce que, je sais pas, Antix d'Iraen, est-ce que ça vous inspire quelque chose autrement que les remarques que vous avez fait tout à l'heure, ou Jeff d'ailleurs, parce qu'on t'a plus beaucoup entendu. Je sais pas,
oui,
si t'es toujours vivant.
Je suis toujours vivant, mais j'ai pas parlé parce que je n'y connais absolument rien sur le sujet.
D'accord, il est en train de traquer des amiibo, donc on peut pas le...
Exactement.
Il a la chasse aux amiibo.
En tant que mec qui connaît absolument rien sur le sujet, on va dire, comment tu fais pour... choisir les jeux qui vont t'intéresser ou que tu vas acheter ou que tu dis bah ça je connais pas trop mais je suis tenté par ça.
Qu'est-ce qui fait par exemple que t'as pas acheté Sonic Boom?
le retour sur internet.
Mais le retour de manière générale, est-ce qu'il y a un truc qui t'a décidé en particulier, enfin, voilà, tu vas être notre cobaye lambda. Donc... Voilà, je sais pas, qu'est-ce qui fait que toi tu vas aller te diriger vers un jeu? Est-ce que tu vas aller regarder le test de machin, regarder toutes les notes de 3-4 sites? Voilà, en tant que.
Non, je lis pas les tests, parce que j'ai pas trop le temps, mais je regarde souvent des vidéos YouTube, des gens qui testent, en fait.
Donc tu cherches à voir ce que ça donne le fait de jouer au jeu dans des conditions
voilà.
Avec le jeu qui tourne, machin.
Voilà, je vais voir un peu que si la personne. Eh bien, ça lui plaît ou comment, enfin genre un peu les premiers niveaux, voir s'ils sont bien, si c'est pas trop difficile, etc. Mais je lis pas les tests. Enfin, je râle surtout, je préfère avoir des visuels.
Ah, tu fais un peu comme moi en fait, où je cherche les vidéos, les infos, et puis après je sais à peu près si je vais aimer ou pas.
Oui.
Mais en tant que joueur, plutôt power user que le mec lambda qui connaît rien et qui n'a aucune idée de comment ça se joue.
Voilà.
Mais je me demande si la décision d'acheter, elle se base pas de plus en plus sur le marketing et tout ce qu'il y a autour, des bad buzz qu'il peut avoir sur certains jeux ou des bons buzz. GTA V, il va avoir un bon buzz, mais de l'autre côté, on va avoir Evolve, par exemple, qui a eu un bad buzz et qui, du coup, s'est pas très bien vendu et qui s'est retrouvé déjà un petit peu...
C'est pas bien vendu, Evolve.
Je pense que le bon exemple, c'est Destiny. Hein. Enfin,
ouais,
Destiny,
aussi, voilà.
Le jeu qui a été vendu sur énormément de promesses et qui s'est plutôt bien vendu, est-ce nous ont montré... Enfin, de ce que j'ai pu lire des tests par rapport aux promesses qui ont été faites, on en est un petit peu loin. Mais le jeu s'est vendu au grand public sur son marketing.
Les jeux qu'ils ont sur leur marketing comme ça, ça touche les jeux qui ont une promo super large.
Ah oui, non, mais de toute façon,
avec le prototype de on cible le mâle blanc
c'est des jeux
de 18
qui sont
à 35 ans.
Hétérosexuels.
C'est des jeux qui sont taillés pour le grand public et qui vont se vendre auprès du grand public. Hein, c'est pas des Bayonetta.
Mais qui sont pas pour leur qualité.
C'est ce genre de jeu qui va se vendre sur le marketing. Moi, d'un point de vue personnel, les jeux maintenant, c'est beaucoup. C'était le studio qui le développe. Je suis très souvent sous les studios, mais
le réalisateur ou le producteur, c'est telle personne. Je sais ce qu'il a fait sur tel jeu. J'ai bien aimé son boulot sur tel autre.
Ça. Et après, il y a toujours les curiosités du genre la DA a l'air pas mal. Il y a une idée de gameplay qui plaît. Et là, c'est pareil, c'est un peu du hasard. Quoi. C'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure avec Jean Bomb, c'est un peu sortir de sa genre de confort et regarder ce qui se fait un peu à côté. Quoi. Après, c'est personnel. J'en ai déjà parlé la dernière fois.
Mais par exemple, avec Splatoon, vous êtes tous hypés par Splatoon, et moi aussi d'ailleurs.
J'ai joué
sur pied.
Moi, je connais pas mal de gens, et moi je me mets dedans aussi, qui n'ont pas joué au jeu, mais qui sont hypés quand même, et qui vont dire ouais, ça va être trop bien sans avoir de notes, et qui vont l'acheter Day One sans même regarder les tests. Et puis, même si se prend un 5 sur Gamekult, ou je sais pas, ou des sales notes, un 12 sur
Gamekult.com,
les gens vont quand même l'acheter.
Sur Gamekult.
Par contre,
je comprends vite que les notes chiffrées ça sert à rien. Et du coup, tu voulais dire quoi en fait?
Que les tests, est-ce que au final les gens les regardent pas de moins en moins avec internet, les vidéos, les trailers, les news, et ils s'abreuvent de news avant, puis ensuite il y a le marketing qui fait son rôle, et est-ce que au final est-ce que c'est assez regardé ou pas les tests?
Si t'avais suivi que le marketing, t'aurais acheté Sonic Boom. Donc je peux donner un exemple.
Non, parce qu'après il y a eu le bad buzz.
Non mais le bad buzz, j'ai regardé après. T'as attendu un petit peu avant de lâcher, tu l'as pas acheté dès
le
début, tu vois.
Le bad buzz est venu après. Non. Nous, on a tous anticipé que ça allait être de la merde.
Attends,
parce qu'on a regardé des vidéos du jeu.
Je suis désolé de vous le dire, les enfants. J'ai jugé ce jeu sur pied. De toute façon, à partir du moment où il y a Sonic dedans, c'est de la merde. Et ce n'est pas un a priori raciste. Je n'aime pas les hérissons. Voilà.
Non mais Sonic Boom, en plus on avait eu des vidéos du bug 3 jours avant que ça sorte, puisque de toute façon les jeux sortent un petit peu avant aux États-Unis en général, donc on peut être informé et voir ce qui se passe, si c'est pourri ou pas, on le sait directement maintenant.
Il y a pas que ça, c'est que il me semblait avoir lu, je crois que c'était c'était Oscar sur Gamekult qui disait que globalement maintenant la note a plus tant d'influence que ça sur les ventes d'un jeu, hein. C'est un marketing qu'il y a, je sais pas, peut-être que Diraen pourra nous confirmer vu qu'elle travaille chez Ubisoft, mais...
Bah je t'avoue que j'en sais rien parce que je bosse pas au marketing.
Ouais, elle est pas à la direction du marketing, la dame.
Elle est là-bas pour travailler, en fait.
Ouais, peut-être que
t'es un bâtard.
Non, mais parce que les mecs marketing, ils bitent rien, tu vois.
Bah Assassin's Creed...
Ils vendent des sacs de patates, hein.
Assassin's Creed, il avait eu un bad buzz au niveau des graphismes, comme quoi il était pas patché, puis avec les gros patchs qu'ils ont sortis, est-ce que ça l'empêchait de bien se vendre? Pas forcément, quoi.
Sauf que le bad buzz sur les bugs, il est pas arrivé en Day One, il est arrivé...
One and me, quoi.
Ouais, enfin, il a grossi, il a pris de l'ampleur au fur et à mesure, mais les gens qui étaient tellement contents d'avoir leur jeu faisaient beaucoup plus de bruit que les gens qui commençaient à râler sur les problèmes.
Ouais, tout dépend c'est quoi tes lectures, quoi, tu vois. Moi, je peux dire que j'ai vu que des gens pas contents, et que patch après patch, ça faisait juste que corriger des bugs, on en rajoutait plein derrière. Là, je sais pas où ça en est, mais pendant 2 mois, ça a été pas content, quoi. Les gens, ils ont pas touché à leur jeu. Mais après, voilà, c'est peut-être qu'il y a effectivement plein de gens qui ont quand même kiffé leur race parce que Paris du 18e, machin truc, tout ça. Ils sont passés au-delà des bugs, mais.
Il n'y a même pas le Parc des Princes. Voilà,
je crois que tu peux pas les portes de Saint-Cloud, hein, dans
Origins. Je pense que tu peux pas. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Ou est-ce qu'on peut clôturer là-dessus? Je pense qu'on a. Là, on a fait un sacré tour.
On avait parlé de Metacritic.
On avait parlé de Metacritic la dernière fois très légèrement. Je propose de le garder pour une autre fois, tiens, Metacritic, parce que je pense qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire dessus.
Ouais, comme par exemple, faudrait le supprimer et puis c'est tout, on en parle plus.
Voilà, par exemple. Non, mais ça veut dire, Metacritic, moi, c'est... ce qui me choque plus, c'est le fait que Nintendo soit autant accroché que ça à Metacritic, c'est ça que je trouve un peu curieux.
Tous les éditeurs sont accrochés à ça parce que les gens font confiance à Metacritic.
Je suis pas sûr que les gens fassent tant confiance que ça à Metacritic.
Pas les mecs comme nous, non, mais je pense que le grand public, oui.
Je suis pas certain, c'est quand même assez spécialisé.
Les éditeurs ont leurs yeux rivés dessus. Hein.
Par contre, c'est clair qu'il y a les yeux rivés dessus et ça pose problème.
Les éditeurs, oui, et ça pose problème même pour les gens qui travaillent parce qu'il y a des équipes qui se font virer si c'est dans leur contrat, quoi. S'il n'y a pas telle note,
oui, voilà, le bonus il est déterminé par la note métacritique.
Ouais, tu dis que pour Nintendo c'est important, mais je crois que c'est assez récent et que c'est uniquement important parce que c'est une manière supplémentaire pour eux de réussir à communiquer sur le fait que la Wii U c'est de la balle et qu'il y a de très bons jeux dessus. Tu vois,
je pense que c'est ça.
Leur marketing fonctionne à peu près pas du tout, à part les Nintendo Direct où Iwata est toujours aussi excellent. Je veux dire, elle fait qu'Amiibo, ouais. C'est devenu du pain béni.
D'ailleurs, la dernière fois, il portait un petit costume moulant qui était.
T'en pouvais plus, hein. Du coup, tu vois, Nintendo met ta critique, uniquement parce qu'ils savent pas faire autrement, parce que je crois qu'ils en ont rien à branler des notes que mettent les sites, sauf pour. Enfin, fondamentalement, quoi, tu vois.
Megaluigi, tu voulais rajouter quelque chose?
Oui, hein, sur Metacritic, il me semble avoir lu un article, je crois que c'était sur Gamekult, si je ne me trompe pas, comme quoi les investisseurs et les mecs qui sont en bourse regardaient beaucoup les notes qu'obtenaient les gros blockbusters de fin d'année, puis ça avait une influence sur le cours de l'action ou des choses comme ça. J'ai peut-être une bêtise.
Tout à fait, parce que les investisseurs ont besoin d'avoir du critère objectif et qu'ils sont partis du principe que l'industrie du jeu vidéo, il n'y avait que ce critère objectif-là qui existe. C'est un peu débile, mais là on parle de gens qui ont beaucoup d'argent mais qui n'ont pas beaucoup de temps à consacrer.
C'est plutôt celui où
à l'entreprise à investir.
Tous les critères objectifs sont rassemblés en un seul et même endroit, en fait.
Oui, tout à fait, c'est ça. Mais je veux dire, d'un point de vue, quand t'es un investisseur et que tu connais strictement rien à, je sais pas, à l'automobile par exemple, parce que t'as pas de voiture, t'as pas le permis et que tu t'en fous, t'as du pognon, tu veux l'investir dans ce secteur-là parce que tu penses qu'il est porteur, il te faut une manière de différencier. Donc effectivement, t'as le bilan du machin, et puis après, bah voilà, t'as le retour de la presse spécialisée, le retour des gens.
Ouais.
Donc voilà, il te faut du critère objectif. C'est débile, mais il te faut du critère objectif.
Voilà, tu dis que c'est un critère débile, mais ce métacritique existe uniquement parce que la majorité écrasante de la presse, on va dire, en ligne, qui a du poids, utilise des systèmes de notation chiffrés, quoi, tu vois.
Tout à fait.
Il n'y aurait pas de métacritique sans...
On est complètement d'accord.
Sans ce truc-là.
Si les gros se disent on fait plus de notes, métacritique s'effondrera sur lui-même.
Voilà. Or, ceux qui abandonnent les notes, c'est que les petits.
Voilà. Jusqu'ici, c'est que les petits. Ce qui est un peu dommage, j'aimerais bien qu'un jour qu'il y ait un gros qui se décide à abandonner effectivement, définitivement, ou vraiment à passer à autre chose. Bref, nous allons nous quitter. Parce qu'il est déjà très tard.
Oh.
Mais nous vous quittons avec la citation du jour, puisque c'est une nouvelle grande tradition qui existe depuis une émission. T'es vraiment un gros connard.
Ouais. Non, mais c'est pas pour moi. Je sais plus qui nous disait sur Twitter que le Virtual Boy, c'était peut-être pas le dernier projet de Gunpei Yoko, mais que c'était en fait Game Boy Pocket.
Ah, non, c'est possible. C'est possible.
Voilà,
je prends le point, c'est possible.
Pour ta citation.
C'est possible. Donc, non, la citation du jour nous
Attends, je plaisante, c'est bon.
Non, moi j'ai un truc à dire aussi.
Putain, c'est vrai. Antique, arrête de tripoter la nouille.
Sur Twitter, on a ouvert un concours pour offrir un amiibo. Donc, vous pouvez avoir un amiibo Megaman. Si vous nous suivez, vous RT le tweet, voilà. C'est une petite pub.
Mais Mega Luigi, Jeff, c'est pas de souci, vous faites la pub que vous avez besoin. On est aussi là pour ça, pour faire la promo des autres.
Merci.
Voilà, on est aussi là pour ça. Donc nous allons nous quitter avec la citation du jour, une grande tradition depuis une émission au moins. Donc là, c'est la deuxième. Et cette citation nous vient de Cyrar, notre éditeur en chef, Dieu bien-aimé à tous. Je cite donc: boire ou conduire, rien à foutre, je rentre en poney.
En éponage, je veux dire.
Voilà, nous allons donc nous quitter.
Enfermons nos gueules.
Je vous dis donc à dans 2 semaines. Miguel Luigi, Jeff, merci beaucoup d'être venu pour nous parler d'Amiibo, pour nous donner votre avis sur nos autres débats. J'espère qu'on vous reverra une fois de temps en temps.
Et merci de nous avoir invités.
Merci, on espère revenir.
Voilà, moi aussi j'espère que vous reviendrez. Ta gueule et mes Tetris, à dans 2 semaines.
Oh.
Salut.
Bye.